Je vais commencer par l'appel. Patrice Benoît. Nadia Nelson, bonsoir. Christian Bussa, présent. Alain Chauville.
Présent.
Vincent Domas. Valérie de Barbieux. Bernard Delpal. Marc Ébrard. Laurence Girard. Jacques Glaise. Vanessa Huguenin. Sylvain Jean. Marie-Madeleine Leclerc. Annie Liagre. Christophe Mancini. Nicole Marcel. Marion Martin. Magali Miani, absente. Pouvoir à Marion Martin. Geneviève Morenas. Nathalie Paulin, absente. Camille Perrin. Frédéric Sten. Et Arnaud Thévenot. Absent. Normalement, il vient. Bien, on verra. Le masque à tout le monde. Oui, c'est mieux le masque. Ben oui. Qui n'a pas son masque? Si, tout le monde a son masque. Désignation d'une secrétaire ou d'un secrétaire. Camille. Ok, merci. On va peut-être faire l'approbation du procès-verbal en premier. Approbation du procès-verbal. Est-ce que vous avez des remarques sur le procès-verbal du conseil municipal du 5 juillet? Pas de remarques? Tout bien? Adopté à l'unanimité? Merci bien. Nous accueillons en début de conseil municipal M. Noé Giraud, qui va se présenter. Où est-ce qu'on va le mettre? Est-ce qu'il y a une place?
Ouais.
Une place là, à côté de Vanessa, c'est bien. Qui va se présenter, qui travaille sur notre commune pendant un an, dans le cadre d'une recherche. Il va nous expliquer, ça va être bien plus simple, d'une recherche appliquée à nos problèmes à l'éventualité de problèmes autour de l'alimentation et sur la capacité d'une commune comme Diolfi et d'un territoire comme Diolfi de pouvoir réagir en cas de soucis sur l'alimentation. Vous avez la parole, cher monsieur Noé.
Merci beaucoup. On m'entend bien, oui. Merci beaucoup pour cette opportunité de présenter le travail au sein du conseil municipal. C'est une première pour moi de présenter un projet de recherche en conseil municipal. Donc j'espère que j'aurai su trouver le juste ton. Et puis surtout, n'hésitez pas à revenir vers moi s'il y a besoin de compléments, de précisions. Il y a mes contacts en fin de présentation. Donc je suis vraiment disponible à répondre à toutes les demandes. Et puis aussi un merci d'avoir répondu présent à l'appel au projet sur territoire et à la proposition de ce projet de recherche qui a été faite en août 2020 et qui a finalement débouché donc sur on a été lauréat donc de cet appel à projet sur territoire, donc il y a eu 55 territoires, des collectivités, des petites villes au sein de la France métropolitaine qui ont proposé des projets. 15 territoires ont été sélectionnés, dont la commune de Diolfi, et ce projet donc que je vais vous présenter aujourd'hui, qui s'appelle « Renforcer la résilience alimentaire d'une petite ville, deux points, un atout de taille », avec un point d'interrogation. Donc pour me présenter rapidement, je m'appelle Noé Giraud, moi je suis économiste et géographe, J'ai été embauché donc par l'Université de Lyon et l'École urbaine de Lyon en particulier pour ce travail sur une durée d'un an. J'ai auparavant travaillé essentiellement sur des questions de relocalisation alimentaire et de circuits courts de proximité. On peut passer à la diapo suivante, s'il vous plaît. Merci. Alors, rapidement, petit tour des logos. C'est un projet qui est financé par donc une plateforme qui s'appelle Popsu Territoire. Qu'est-ce que c'est? C'est une plateforme qui est issue du ministère de la Cohésion des Territoires et qui finance des projets de recherche-action pour mobiliser la recherche publique sur des questions qui concernent spécifiquement les petites villes et les territoires ruraux en France. La volonté de l'État, à travers cette plateforme, c'est de venir compenser un déficit d'attention et de recherche sur ces territoires, comparativement aux grandes métropoles et aux grandes agglomérations qui concentrent beaucoup les attentions. Donc c'est 50% du financement du projet et 50 autres % ont été mobilisés par l'École urbaine de Lyon à travers une entité qui travaille spécifiquement sur les questions d'anthropocène et le laboratoire de recherche qui accueille donc mon contrat dans lequel je suis, c'est le laboratoire d'études rurales de l'Université de Lyon qui est dirigé par Claire Delfos, géographe. Également dans la recherche, les Greniers d'Abondance est une association dont je fais partie et qui mène des travaux de recherche sur ces questions spécifiquement de résilience alimentaire et donc qui accueille également le projet. Donc la collectivité, bien entendu, c'est la commune. En partenaire, il y a la Radio LA, que vous devez bien connaître, qui est partenaire dans le projet pour la création de podcasts. Et en soutien du projet, la communauté de communes de Dieulefit-Bourdeaux, par rapport à ses approches précédentes, mais aussi au PAT qui vient d'être... Oui, le projet alimentaire territorial, pardon, pour les acronymes, et aussi par le soutien qu'elle fait à la Radio LA pour la création d'un podcast. Voilà un peu l'horizon institutionnel, on va dire, de ce projet de recherche. Alors, on peut passer à la diapo suivante. Je ne sais pas si... faire un petit... Désolé pour le... alors la résilience alimentaire, c'est quoi? Alors ce schéma-là, c'est pour présenter schématiquement ce qu'est le système alimentaire. Donc on voit que c'est quelque chose qui regroupe un certain nombre de secteurs, depuis les intrants agricoles jusqu'aux déchets, en passant par la production, la transformation, la distribution et la consommation, sans oublier le secteur, enfin l'axe de politique foncière et agricole qui vient réguler l'ensemble de ce système. Aujourd'hui, ce système est remis en cause, notamment pour sa fonction première, c'est-à-dire nourrir la population. Quand je dis remis en cause, c'est qu'un certain nombre d'études pointent des vulnérabilités au sein du système alimentaire actuel dans la mission qui lui est due, c'est-à-dire nourrir la population. On peut citer quelques chiffres, hein, mais je ne vais pas détailler tout ça, je vous renverrai plutôt vers les travaux des greniers d'abondance pour ça, mais une ville comme Lyon, on a pu déterminer que dans le cas d'une rupture logistique, il y avait 2 à 3 jours de stock alimentaire pour nourrir la population, c'est-à-dire quasiment rien. Donc il y a une fragilité en fait intrinsèque au système. Et puis on sait aussi une dépendance aux flux mondiaux. Un département français aujourd'hui exporte en moyenne 90% de sa production agricole pour importer 90% en moyenne de son alimentation. Donc cette situation questionne les chercheurs, et en particulier dans des situations qui peuvent être de crise. Donc évidemment, je ne vais pas revenir sur la crise du Covid, qui a pu être une bonne illustration de ce que peut être une situation de crise, mais aussi des menaces plus globales, comme le changement climatique, la sécheresse, des événements qui viennent jouer sur des extrêmes comme le gel qu'on a pu connaître cette année et impacter nos productions locales. On peut passer à la diapo suivante, s'il vous plaît. Ah, un petit peu avant. Merci. Et donc, quand on parle de résilience alimentaire, on s'interroge sur ce système alimentaire, comment renforcer sa capacité à maintenir cette fonction, c'est-à-dire de nourrir la population. Qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on devrait faire collectivement pour assurer cette mission? Donc, il y a un certain nombre de voies qu'on appelle des voies de résilience qui ont pu être mises en évidence. Et dans un précédent travail de recherche mené par le Grenier d'Abondance dans une agglomération de Grand Angoulême, et on se demande ici, à travers ce projet de recherche, quelles actions et dans quelles proportions on peut mettre en place ici pour un territoire comme celui de Dieulefit. Donc on peut passer à la diapo suivante. Le territoire, c'est quoi? Alors évidemment, ce n'est pas que la commune de Dieulefit. Quand on parle d'alimentation, on parle de flux et donc d'échanges alimentaires, donc ça va bien au-delà. Il faut avoir une vision d'un territoire qui est ouvert et articulé. Donc on se pose la question à partir de Dieulefit, et ensuite on va chercher à comprendre quelles sont les relations avec la communauté de communes et au-delà. Alors, pour donner un petit une illustration de cette nécessaire articulation des échelles qu'on mobilise dans le projet de recherche, quand on regarde un certain nombre d'indicateurs justement de résilience alimentaire sur le territoire de Dieulefit, on se rend compte qu'on obtient des notes. Alors, je pourrais présenter plus, mais bon, je pense que c'est pas le moment, cet outil-là. Mais on voit qu'à l'échelle de Dieulefit, on a une adéquation entre la production et les besoins de la population qui est très faible. Alors que lorsqu'on regarde ces mêmes indicateurs à l'échelle de la communauté de communes, cette adéquation des productions et des besoins est beaucoup plus forte. Alors, on peut passer à la diapo suivante. On va avoir le détail. Qu'est-ce que ça veut dire, l'adéquation des besoins et de la production? C'est en termes de céréales, d'autres cultures, fruits, légumes, fourrages, oléoprotéagineux. Donc on regarde différents secteurs et on regarde comment la production locale pourrait théoriquement nourrir la population selon des besoins qui sont calculés selon les assiettes moyennes, donc un certain nombre d'études qui permettent de quantifier tout ça. Donc on voit que le territoire de Dieulefit est à 16% de taux de couverture moyen. Alors c'est très théorique, hein, mais c'est pour donner un ordre d'idée que en changeant d'échelle, en réfléchissant à des échelles différentes, on peut voir qu'on a des pistes et des facilités à penser à la résilience alimentaire pour la communauté de communes, par exemple. Alors, voilà. Donc ensuite, donc ça c'est une approche extrêmement, on va dire, chiffrée, statistique. On regarde des indicateurs, mais l'autre élément qui intéresse Popsu Territoire, et donc je reviens un peu à l'appel à projet, c'est de comprendre comment on peut voir l'alimentation comme un nouveau récit dans les territoires. Comment ça peut être porteur de développement, porteur de projet? Comment ça peut être une manière aussi pour des territoires ruraux, des petites villes, de jouer un atout, une carte, qui est différente que celle des agglomérations ou des grandes villes. Et donc, on peut avoir là un récit qui se construit collectivement, donc entre les collectivités et les acteurs, et pour essayer de comprendre en quoi l'alimentation, et notamment cette réflexion sur comment renforcer la résilience alimentaire, peut être porteuse de territoire, de récit territorial, on mobilise dans ce projet un certain nombre d'outils méthodologiques, donc très classiquement des entretiens. Je vais rencontrer, j'ai déjà commencé, un certain nombre de personnes et d'acteurs sur le territoire, mais aussi on organise des rencontres publiques. Il y en a une ici le 16 juin dernier. Des ateliers de cartographie vont être mis en place, et enfin une création d'une série de podcasts est en cours de création avec la radio Radio Lab, pour justement donner à voir, quand on parle d'alimentation sur le territoire, comment ces porteurs de récits de vie, de porteurs de projets, et illustrer en fait toutes ces grandes réflexions que je vous ai montrées au tout début par des récits de vie. Alors on peut passer à la diapo suivante. Le dernier aspect que je voulais mettre en valeur ce soir sur ce projet de recherche, c'est un projet de recherche participative. On essaye de mettre en place, à travers cette recherche, la prise en compte donc des personnes et des habitants pour avancer dans la recherche au fur et à mesure. Donc la rencontre publique du 16 juin, par exemple, a permis d'identifier des thématiques qui étaient plus ou moins mises en avant par les participants. Une autre rencontre publique va être menée à Bordeaux. Et puis, ensuite, donc, les ateliers de cartographie sont en préparation pour l'automne, où là, on va interroger la représentation du territoire qu'ont les gens, les habitants, en fonction de cette question alimentaire. Et, oui, exactement. Donc, qu'est-ce que ça voudra dire, autour d'une cartographie, se poser la question de où est-ce qu'on va faire nos courses, où est-ce qu'on irait cueillir des fruits si on devait en cueillir demain, quelle est notre appréhension des cultures qui se font autour de chez nous, quelles peuvent être les rivières qui irriguent nos champs, etc. Donc ça, c'est un certain nombre de questions qui animent l'atelier, et en même temps les participants vont dessiner sur cette carte et permettre de mettre en valeur quelles sont leurs connaissances en fait du territoire. Et ces ateliers vont avoir lieu dans différentes communes pour bien essayer de comprendre que quand on habite à Dieulefi, à Vesque, à Combaré ou à Bourdeaux, eh bien, on n'a pas cette même connaissance, on n'a pas cette même vision du territoire et qu'il y a des choses aussi à comprendre. Et puis, on va dire le point d'orgue de ce projet de recherche est en fait l'organisation d'une journée au printemps prochain qui visera à restituer tous ces outils, toutes ces recherches et de mettre en avant des pistes d'action et de co-construire avec les participants de cette journée une stratégie pour renforcer donc la résilience alimentaire du territoire. Alors on peut passer à la diapo suivante. C'était pour illustrer, donc ça c'était la soirée du 16 juin dernier. Les photos sont réalisées par Johan Grusson et Daniel. Voilà, je n'ai pas pu mettre les crédits. Donc là j'ai mis rapidement, je voulais pas détailler non plus les résultats de cette soirée, mais rapidement les thèmes qui ont été mis en valeur par les participants quand on leur demandait quels pouvaient être leurs ressentis vis-à-vis de leur alimentation et des menaces qu'il pouvait y avoir sur leur alimentation. Donc on voit que la façon très très majoritaire, c'est le changement climatique qui vient de prime abord à l'idée des gens. Mais ensuite, on a aussi les modes de consommation, l'instabilité économique et politique, la dégradation des sols et l'artificialisation, etc. Donc cette journée a réuni une cinquantaine de personnes, en grande majorité de Dieulefi, mais aussi de communes avoisinantes. Alors on peut passer, voilà, et donc là la localisation des ateliers de cartographie participative. Le prochain aura lieu le 12 octobre, ici même, à la halle de Dieulefi. Donc voilà, le rendez-vous est pris, et je recherche d'ailleurs pour cet événement des participants qui aimeraient animer des tables de cartographie avec moi et à qui je propose de former, en fait, de les former à cet outil pour l'occasion. Voilà, on peut passer, je pense, c'est la fin. Je vous remercie de votre attention. Et, voilà, n'hésitez pas à me contacter. Je suis là pour ça jusqu'en mai prochain.
Merci pour cet exposé. Est-ce que vous avez des questions, des remarques? Ce dossier est suivi par Laurence et par Camille. Mais voilà, si vous avez des questions à Noé, c'est le moment. J'ai retenu deux ou trois mots. Vulnérabilité d'abord, parce que c'est vrai que suite à cette pandémie, on s'est rendu compte de la fragilité de notre système alimentaire. Projet porteur, parce que je pense qu'effectivement, relocaliser l'agriculture est un véritable projet pour le territoire et pour la commune. Et puis la recherche de pistes d'action, je pense que c'est intéressant. Moi j'avais peut-être une question pour faire préciser un peu ce que c'est que cette idée d'atelier de cartographie. Est-ce que tu peux nous dire deux mots sur qu'est-ce que tu recherches des gens pour t'aider à faire ça, à animer? Quelle est l'idée de...
Alors, l'idée, c'est de voir comment, quand on demande aux gens de raconter où est-ce qu'ils vont faire leurs courses, ou comment ils perçoivent là où se produit la nourriture, à voir quel est le territoire qu'il mobilise. C'est-à-dire que la cartographie qui va servir de support à nos discussions va aller bien au-delà de Dieulefit, elle va partir de Valence, de Drôme, jusqu'en bas vers Valréas. Et donc ça va être une carte très large, de façon un peu très centrée bien sûr sur Dieulefit, mais l'idée est bien de voir que, enfin c'est une hypothèse, mais je vois dans quelle mesure les pratiques habitantes en tant que consommation, mais aussi en tant que perception des productions qui sont faites dans le territoire, vont bien au-delà de la commune ou de la communauté de communes. Et comprendre dans quelle mesure ça va au-delà, quels sont les autres territoires qui sont... Enfin, je fais une hypothèse, hein, mais peut-être que le Val de Drôme ou la plaine de Montélimar va ressortir trop dans ces ateliers, et auquel cas il faudra se poser la question de penser avec ces territoires les systèmes alimentaires locaux. Donc l'idée, c'est bien de faire attention, on appelle ça l'effet frontière en géographie. On a souvent tendance à penser les choses à l'échelle de notre entité administrative. En l'occurrence, quand on parle d'une réalité comme une réalité complexe comme celle de l'alimentation, souvent ça dépasse ces entités-là, ces limites-là, et on peut avoir un effet des angles morts en fait dans notre façon de construire notre politique publique si on ne prend pas garde justement des territoires autour avec lesquels les habitants fonctionnent déjà. Et donc l'idée, c'est avec ces ateliers de comprendre justement quels sont ces territoires, quelles sont les articulations qu'il faut penser pour Dieulefit, la communauté de communes. Voilà, j'espère que ça a pu préciser un peu.
Je veux bien faire un petit ajout, tu as dit que le prochain rendez-vous c'était le 12 octobre, avant ça il y a quand même le 19 septembre, une journée qui est organisée dans le cadre de la fête des possibles par des associations, sur l'agriculture et l'alimentation, et tu animes un moment d'atelier débat sur le prix pour travailler voilà sur d'où vient, comment on construit un prix et comment on déconstruit un prix, qu'est-ce qu'il y a derrière, etc. Et donc c'est toute une après-midi sur le sujet agriculture alimentation aussi, où il va se réfléchir et se discuter sur les droits des paysans, et donc c'est au parc de la Baume le 19 septembre, voilà, à partir de 14h.
Ok. Merci bien. Voilà, ben merci Noé.
Merci à vous.
Bon travail dans la région. Je pense qu'il y a des tas de gens à rencontrer intéressants sur des. Voilà, l'histoire agricole de Dieulefit est riche, même si elle est aujourd'hui un peu en déshérence. Un beau passé agricole. Merci.
Merci à vous. La difficulté, ça va être de ne pas pouvoir rencontrer tout le monde, justement. En fait, il y a beaucoup de choses.
Bien, la délibération numéro 1 concerne la demande de subvention pour une deuxième tranche de l'aménagement du skatepark à la DETR 2022.
Oui,
Camille Perrin.
Ta parole est à moi, mais je signale tout de suite une erreur, puisque ce n'est pas une demande pour la DETR 2022. Mais de subventions au département et à la région. La DETR, ça sera en février. Donc moi, on m'avait... Enfin, voilà. Donc, on avait dit que là, cette fois-ci, c'était département et région. Donc on travaille depuis quelques mois maintenant sur le projet du skatepark. On en a déjà parlé plusieurs fois en conseil municipal. On est accompagné pour ça par un cabinet d'architectes spécialistes dans le domaine qui s'appelle Atelier MV. Et donc, depuis le départ, on avait séparé donc le projet en deux tranches. Donc la première tranche, le skatepark, donc pour lequel on est en cours d'obtenir quasiment toutes les subventions qu'on avait demandées, c'est-à-dire 75%. Et la deuxième concernait la rénovation du Mille Club. Donc dans le travail qu'on a fait avec l'architecte et les utilisateurs du lieu, donc les jeunes, les parents et les enfants. En fait, avec les conseils et les réflexions de l'architecte, on a eu envie de joindre le Mille Club et le skatepark et de faire que cette architecture, donc qui reste un toit et des piliers de Mille Club, devienne une halle couverte abritant une partie du skatepark, ce qui en fait un élément unique dans le paysage des skateparks. En France, selon le cabinet d'architectes en tout cas, puisqu'il n'y a pas de skatepark couvert qui soit en équipement public. Donc voilà, ça pourrait en faire vraiment une spécificité et un élément attractif. Donc voilà, donc cette tranche 2, donc elle inclurait voilà, et donc des modules dédiés, des modules de skate donc dédiés aux débutants, et donc bah, permet une pratique du skate et des autres sports voilà de glisse, donc par temps de pluie ou par forte chaleur en apportant de l'ombre, et elle serait vraiment ouverte donc dans la continuité du reste du skatepark. Donc les pratiquants peuvent faire des allers-retours entre dessous le Mille Club et le reste du skatepark. Voilà, donc cette tranche 2 donc, inclut donc, la réhabilitation de ce Mille Club à cet usage. Et puis un ensemble de choses un petit peu techniques, donc sur l'arrivée d'eau, l'ancienne cuve de fioul. On fait aussi tout un travail sur les accès pour essayer de fluidifier la circulation donc, sur l'ensemble de la zone. Et tirer le meilleur parti de tout l'espace. Voilà, on s'est rendu compte qu'il y avait un peu des espaces perdus, donc le petit chemin là, qui arrive sur le rond-point qui n'est hein, pas très sécurisé. Voilà, donc on va travailler sur les circulations. Et donc il reste un peu, il y aura aussi la pose de pare-ballon entre le terrain de foot et le skatepark. Et donc il reste un petit budget pour créer a priori une aire de jeu. Et donc, là, on doit encore valider le contenu de cette aire de jeu lors d'une réunion publique, là, en septembre. Et voilà, sur le budget qui nous reste, pour une enveloppe qu'on s'est donnée à 120 000 euros. Je crois qu'il reste à peu près 25 000 euros pour choisir des modules d'aire de jeu. Voilà, donc là, l'objectif, c'est de faire la demande de subvention donc, au département et à la région, et en février prochain à l'État, pour espérer, pareil, couvrir à peu près 80% de l'enveloppe de 120 000 euros en subvention. Voilà la présentation du projet. Est-ce qu'il y a des questions ?
Oui, personnellement, ce n'est pas tellement une question, c'est plus une remarque, comme je te l'ai fait avant même que démarre le conseil. La transformation du mini-club, j'ai été voir ce matin, je trouve qu'en effet c'est un lieu qui est couvert, qui est assez vaste, et ma crainte c'est que abriter des modules dédiés aux débutants pourrait permettre son usage par temps de pluie. Moi je pense qu'il faudrait peut-être envisager que ces modules puissent être déplaçables, parce que la halle elle-même pourrait faire l'objet de plusieurs utilisations, tels que spectacle, de théâtre, ça pourrait même pratiquement être un genre de kiosque à musique, ça pourrait être un lieu pour organiser des balles, etc., etc. Et s'il y a quelque chose au milieu qui n'est pas qui est fixe, qu'on ne peut pas transporter éventuellement, je pense que ça serait un peu regrettable. Voilà, c'est la remarque que je voulais faire.
Alors c'est vrai que j'aurais pu vous montrer le plan de ce qui est prévu là. Donc pour l'instant ce qui est prévu c'est principalement des assises sous les endroits qui sont très pentus. Donc là ça sera toujours intéressant, voilà. Et sinon c'était une petite table assez basse sur le milieu du mini-club, mais ça ne prend pas énormément de place. Donc on va en discuter de cette remarque avec l'architecte, on va voir ce qui est possible de faire. Après on a quand même aussi à combiner avec un objectif de durabilité des équipements, que ce soit robuste. Donc voilà, on va en tenir compte.
Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Non, ça va ? Je veux bien que tu fasses voter.
Oui. Alors, donc, qui est pour cette demande de subvention ? Qui s'abstient ? Et personne n'est contre, je crois. Et donc tout le monde était pour, je crois.
Merci bien. La délibération suivante concerne l'acquisition du bâtiment Top Garage, des bâtiments, puisqu'il y a deux parcelles. L'acquisition des bâtiments Top Garage par l'établissement Epora pour le compte de la commune. Vous vous souvenez qu'on a... Je vous ai demandé l'autorisation de signer une convention avec Epora pour pouvoir faire ce genre d'opération. Là, il s'agit donc de loger prioritairement et de manière assez urgente les Restos du Cœur, qui sont, vous le savez, à qui on a demandé de quitter les lieux de la maison des Échiroux, et qui donc sont en recherche d'un local. Donc voilà, ça s'est fait bien sûr en lien avec les Restos du Cœur, avec Marcel Vignon qui est venu plusieurs fois visiter. On a trouvé donc l'idée, c'est que les Restos du Cœur prendraient une partie de ces bâtiments et que le reste du garage pourrait être aménagé et prévu pour l'accueil de sans doute trois ateliers, entreprises. Voilà, donc il y a des demandes, on en parlera ensemble, bien sûr, avant d'avancer plus avant, mais enfin, ça paraît être une opération qui est intéressante. Enfin, en tout cas, indispensable pour les Restos du Cœur, et c'est intéressant ensuite pour la commune qui ferait son boulot de donner un coup de main pour des jeunes entreprises qui cherchent à s'installer. Donc on a fait venir les domaines, le France Domaine, qui a donc estimé ce garage à 198 000 euros, et donc l'accord a été trouvé sur ce prix-là avec le propriétaire, M. Paul Bourin. Voilà, donc l'idée, vous vous souvenez, Epora, l'idée c'est que c'est Epora qui achète pour le compte de la commune, qui paye pour le compte de la commune, et la commune a 4 ans pour rembourser le prix de l'achat sans frais, ce qui nous permet budgétairement de prendre le temps de prévoir cette dépense dans les 4 ans qui viennent. En attendant, s'il y a des loyers, ces loyers sont pour la commune, donc c'est tout bénef pour nous. Voilà, est-ce que vous avez des questions sur cette opération?
Oui.
Je vois Sylvain qui prend un...
Bonsoir. Oui, deux petites questions. Alors, bien sûr, on ne va pas revenir sur le fait qu'il faut à tout prix placer les Restos du Cœur. C'est bien sûr important, voire même plutôt essentiel. On sait que sur le territoire, il faut vraiment qu'il soit présent. Donc, c'est la première chose. La seconde chose, c'est que nous, le coût, on vient de l'avoir. On ne l'avait pas jusqu'à présent, mais on vient de l'avoir. 198 000 euros, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Nous, ce qu'on aimerait connaître déjà, c'est le mode de financement. On sait qu'on a 4 ans. Comment vous prévoyez ce mode de financement? C'est quand même important d'y songer dès maintenant, pas attendre 2024 pour se poser la question. Donc ça, c'est ma première question. Et ensuite, est-ce que vous avez chiffré le montant d'éventuels travaux? Parce qu'on ne peut bien sûr pas les installer à l'emplacement, dans la structure actuelle. C'est bien sûr pas possible, ou pas décent plutôt. Est-ce que vous avez chiffré le montant de ces travaux? Et voilà, donc déjà deux questions.
Alors sur la première, je vais peut-être répondre sur la première, puis Marc, je te laisserai répondre sur la deuxième. Sur la première, on s'est mis d'accord pour faire le gros œuvre sur la partie Resto du Cœur, hein, qui serait louée au Resto du Cœur. On s'est mis d'accord pour qu'on fasse les gros œuvres. Marc vous parle à chiffres. On s'est aussi mis d'accord sur un futur loyer, qui sera un petit loyer, mais qui sera quand même un loyer, parce qu'il me semble que... Voilà, c'est important aussi que les associations soient responsabilisées là-dessus. Ensuite, sur le mode de financement, il y aura deux solutions. Soit on emprunte et les loyers correspondront au remboursement, hein, les loyers des Restos du Cœur et des trois futures installations. Soit le budget est florissant et on n'aura pas besoin d'emprunter. Voilà. Et on le décidera ensemble au cours de l'examen du budget 2025. Voilà. Je te laisse.
Oui, donc, oui, effectivement, tu as raison, Sylvain. Il y a des travaux à faire. En particulier, le plus gros des travaux, c'est le sol dans la partie resto du cœur. Parce qu'eux vont se charger du second œuvre. Les Restos du Cœur ont en interne des services qui s'occupent de ça, qui font les plans, gens qui étudient et puis qui font les travaux, ils ont un système. Donc nous, en fait, on leur loue, on leur loue un plateau. Voilà. Il faut aussi intégrer, alors là c'est au global, la viabilisation des réseaux. C'est-à-dire qu'il faudra que les différents sites, les quatre sites donc, qui seront créés, et leur alimentation d'électricité, et puis a priori des raccordements eaux et eaux usées pour une partie pour le Resto du Cœur et une partie pour le reste des ateliers, à qui on demandera de faire a priori WC commun, en tout cas dans un premier temps. Voilà, donc ce qui fait que les travaux sont assez limités pour la partie louée aux entreprises. Qui se limitera en fait à des fractionnements et montage d'une salle avec a priori on serait parti, alors il y aurait une étude on attend d'être propriétaire, hein, enfin Epora sera dans un premier temps propriétaire, mais nous on aura la mainmise sur le projet, donc on fera faire probablement une petite étude d'architecte pour des implantations de cloisons, de séparations et l'implantation des WC et bureaux communs. Voilà, ça va se présenter comme ça. Alors, on n'est pas pour l'instant dans du chiffrage précis, mais c'est vrai que pour la partie Resto du Cœur, c'est environ une vingtaine de milliers d'euros pour la partie grosse œuvre qui nous incombe. Et puis les réseaux, ce sera environ à peu près la même somme, autour de entre 20 à 25 000 euros. Et puis les cloisonnements, ça on a estimé qu'on allait les faire en interne avec les services techniques qui monteront des parpaings pour séparer les a priori, les trois ateliers qu'on sera susceptible de créer.
Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui.
Oui.
Il y a un micro à côté du podium.
Oui, je pense tout d'un coup au Resto du Cœur qui était souvent accueilli pour des permanences dans le bâtiment qu'il faut laisser. Est-ce que éventuellement, si le Resto du Cœur s'adresse à la municipalité pour avoir un local dans ce nouveau site, qu'est-ce qu'on leur répondrait?
Resto du Cœur?
Bon, non, pas Resto du Cœur.
On recommence.
Territoire zéro chômeur.
Territoire zéro chômeur.
Et c'est avec un local. Alors je sais pas. Je sais qu'ils cherchent toujours un lieu permanent, visible, etc.
C'est un des.
Alors s'ils apprennent, je pense qu'ils apprendront forcément cette acquisition et cet aménagement, ils peuvent être candidats. Et est-ce qu'on y pense et est-ce qu'on voilà, qu'est-ce qu'on
oui,
va leur répondre?
On y a carrément pensé puisque j'en ai déjà parlé avec l'asso Interstice. Donc effectivement, comme la naissance du CLE de Territoire Généraux Chômeurs et de l'EBE. Et quelque chose, si on est désigné comme territoire émergent pouvant.
CLE, ça veut dire comité local.
Le CLE, oui, pardon, comité local de l'emploi.
EBE.
Et l'EBE, l'entreprise à but d'emploi. Hein, ce sont les deux structures les deux instances qui mènent le dispositif Territoire Zéro Chômeur, donc qui sont actuellement en création. Si effectivement nous sommes territoire élu sur le dispositif, bien sûr j'en ai déjà parlé avec eux. Du point de vue de la temporalité, ça collerait pas mal parce que le BE pourrait rentrer en action dans environ 2 ans, ce qui nous laisserait nous largement le temps de leur réserver une partie du site. Qui sera pas très grande, mais sachant que Interstice dans son projet souhaite ne pas tout localiser ses actions sur Dieu le Fit. Ils aimeraient bien se dispatcher un petit peu sur l'ensemble de la CCDB. Donc ils n'ont pas besoin d'énormément de mètres carrés. Donc pour le lancement, c'est effectivement, alors c'est pas acté, hein, bien sûr, mais c'est absolument bien dans les tuyaux parce que ça ça comporte dans ce, en termes à la fois de temps et de budget.
Voilà, de manière plus générale, de pouvoir acheter comme ça 550 mètres carrés de locaux pour des activités artisanales et type Resto du Cœur, c'est quand même, je pense qu'on fait bien notre boulot, hein. On répond à notre tâche, à notre mission. Patrice ?
Oui, une question, bonsoir à tout le monde. Donc, une partie réservée pour les Restos du Cœur, et donc un mètre carré, il resterait combien sur les...
Il resterait 350.
350 pour ouais. Faire 3 lots, c'est ça ?
Et comme il reste 350 mètres carrés.
D'accord. Merci.
Voilà. Donc, dont la partie qui irait à l'élevé, peut-être qui serait dans peut-être un tiers de ces 350.
Donc, un tiers réservé à l'EBE.
On verra, il n'y a rien à faire, c'est au point, on a 350 mètres carrés disponibles pour séparer, a priori en 3, parce qu'on se disait que c'était des lots relativement importants, mais
voilà. Non mais comme c'est un site économique au départ, bon ok, le Resto du Cœur, on comprend la démarche, après c'est ne pas priver aussi trop d'Yolfi, de locaux... économique pour parce qu'on sait les difficultés pour ceux qui s'installent etc.
Donc, voilà. On en est plus conscient et oui, c'est pour ça que c'est bien pour ça qu'on l'achète aussi.
On a dit qu'on ferait un appel public pour que tout le monde soit informé de ça, donc je sais pas si c'est ce soir maintenant, mais en tout cas
on a prévu une commission économie dans les semaines qui viennent pour un des points à l'ordre du jour.
Intéressant de donner l'information au consulaire, c'est CIUS, Chambre des Métiers, qui diffuse après largement sur le département et plus.
Après, on a déjà des demandes. Hein.
Oui, non, mais...
On n'a pas besoin de gens de Valence. De...
Après, il y a demandes et demandes.
Il y a demandes et demandes.
Juste, moi, je veux bien faire une petite remarque, comme Jacques aussi fait une remarque sur le skatepark, moi, je voulais faire une remarque là, de dire qu'on a des échanges depuis quelques semaines, mois, avec des habitants, des acteurs de l'aide alimentaire, et donc là, on a une dizaine de personnes qui ont envie de se mobiliser un peu sur un groupe de travail démocratie alimentaire, et réfléchir notamment à l'approvisionnement de l'aide alimentaire. Et donc, je pense que ça sera important d'être en lien avec le projet des Restos du Cœur de voir quelles évolutions on peut porter aussi, parce qu'on a une responsabilité collective sur la qualité de l'alimentation qui est fournie à tous et à l'accès à tous à une alimentation de qualité.
Parfait, merci de le préciser. Qui est pour ce projet d'achat ? Qui s'abstient ? Personne. Qui est contre ? Je vous remercie. C'est toujours moi. La délibération numéro 3 sur l'exonération partielle de la part communale de la taxe foncière sur les propriétés bâties. Je vais essayer d'être court et clair. Jusqu'à l'année dernière, la taxe foncière se partageait en deux parties principale, la part départementale et la part communale. Depuis cette année, vous savez que la taxe d'habitation a disparu et que le législateur a prévu que les communes, pour remplacer cette taxe d'habitation, encaissent en plus de la part communale, la part départementale de la taxe foncière sur les propriétés bâties. Ces deux parts, communales et départementales, étaient éventuellement exonérées. Alors, dans le cas de Yolfi, la part départementale était exonérée pendant les deux premières années. Pardon, je n'ai pas précisé. Ensuite, au bout de la troisième année, le propriétaire payait sa taxe départementale. Et dans le cas de Yolfi toujours, la part communale n'était pas exonérée. Donc, le propriétaire payait tout de suite la partie communale. Le législateur, dans cette espèce de grand micmac fiscal, a prévu de donner la possibilité à la commune d'exonérer. Alors, on peut exonérer soit à 40% le total des deux parts, soit à 40%, soit à 50%, soit à 60%, 70%, 80% ou 90%. Devant la situation qui était donc celle de Diolfi jusqu'à présent, je vous propose qu'on exonère pendant les deux premières années la nouvelle part communale, hein, qui est donc la réunion des deux parts communales et départementales, qu'on les exonère à 40% pendant les deux premières années. Est-ce que j'ai été clair et court ? Court, ça va ? Clair ? N'hésitez pas sur les questions.
Parce qu'avant, il n'y avait pas de règle.
Avant, la part départementale était exonérée et la part communale, par une délibération qu'on a retrouvée de 1992, me semble-t-il, la part communale n'était pas exonérée, sauf pour les habitations qui avaient été financées par un impôt aidé par l'État, ce qui représentait personne, en fait, depuis des années, il n'y avait pas de personne ne pouvait exonérer la part communale. Donc en fait, il y avait la moitié qui était exonérée et l'autre moitié qui n'était pas exonérée, pendant 2 ans. Hein, on parle toujours des 2 premières années. Voilà. Donc,
j'ai une question.
Oui.
Est-ce que c'est obligatoire d'exonérer ?
On ne peut pas ne pas exonérer à moins de 40%. On s'est posé la question aussi de savoir si on pouvait exonérer des bâtiments qui correspondraient à un certain nombre de règles de construction. Ce n'est pas possible. Donc, c'est... Voilà. Soit on exonère à 40%, soit on exonère à 100%, ou à 90%, 80%, 80%. Oui, Laurence.
Oui, mais...
Avec un micro, merci.
Je renonçais à ma question. Non, c'était par rapport au bâtiment qui ne serait pas habité. Mais ça peut que jouer sur la...
Non, non, là, on parle des nouvelles maisons.
Oui.
Des nouvelles constructions d'habitation. Oui, Vincent.
Justement, j'aurais aimé une petite précision. Est-ce qu'on fait la distinction entre les maisons secondaires et les résidences principales ?
Non, c'est les constructions de nouvelles habitations qui sont concernés par cette exonération éventuelle de 40% si vous la votez. Ça représente entre, alors l'année dernière, 19 dossiers, l'année d'avant 22, l'année d'avant 18, voilà, une vingtaine de dossiers par an, et ça représente quand même autour de 5 000 euros. L'enjeu, c'est quand même 6 000 euros par an. Hein, c'est pas tout à fait, c'est pas rien. Est-ce que quelqu'un, une petite question encore ?
Les 5-6 000 euros, c'est une projection ? Ça pourrait
C'est une moyenne de ce qu'on ne toucherait pas si on exonérait à 100%.
Ouais.
Voilà, c'est le... Si on exonérait à 100% la nouvelle part communale, on perdrait autour de 6 000 euros. Somme qui était jusqu'à présent payée par les propriétaires sous la forme de la partie communal qui n'était pas exonéré. Compliqué. Ça va ? On peut voter ? Est-ce que...
Ah oui. Dans 2 ans ?
Non, non. Non, non, c'est voté. Alors si le législateur ouvre la possibilité d'exonérer moins, on peut en reparler.
Ouais,
mais aujourd'hui, je vous propose d'exonérer à 40%
d'accord.
Pendant 2 ans toutes les constructions à partir de cette année.
Okay, ça. Les
40%, c'est le minimum.
Oui, c'est le minimum.
On
ne peut pas plus. Qui est-ce qui est contre ? Qui est-ce qui s'abstient ? Je vous remercie. Une abstention. Merci. Donc, qui est pour ? Merci. Oui, je te présente. Marion Martin, responsable de la cantine.
Oui, bonsoir. C'est donc moi qui vais présenter la délibération numéro 4, qui est donc où je vais vous demander donc d'approuver la, la convention donc de fourniture de repas à l'école du Ginchet par le collège. Voilà, donc le département est dans une démarche donc, de mutualiser ses équipements et n'ayant pas de restauration scolaire à l'école du Ginchet, donc les enfants vont manger leur repas au collège. C'est la même convention qu'avant, donc je vais vous redire un peu. Donc le tarif des repas est fixé donc, par le département. Le département donc, nous facture les repas 3,50 €. Il n'y a pas de demande de la part du département sur de l'investissement. Par contre, en échange, donc, la commune s'engage à mettre à disposition du collège un agent communal pour un volume de travail hebdomadaire de 39 heures. Voilà, donc ça, c'était déjà ce qui était mis en place. La nouveauté donc, de cette convention, c'est que donc, suite à la crise sanitaire de l'année dernière, on s'est retrouvé très ennuyé puisque le collège ne pouvait pas accueillir les écoles du Ginchet à domicile par désinfection entre chaque prise de repas, etc., etc. Et donc, à notre demande, et après étude, et après accord du conseil d'administration du collège et du département, maintenant sera mis en place la possibilité de livraison de repas pour des situations exceptionnelles. Dans ce cas-là, le collège s'engagera donc à la fabrication des repas et la commune sera en charge donc de l'acheminement et de la gestion du repas, de la prise du repas. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a des questions ?
Comment vous organisez la livraison ?
Ah non, alors ça, c'est pas pour la rentrée, c'est vraiment en cas exceptionnel.
Oui, non, j'ai compris.
En cas de, eh ben, alors ce sera...
Parce qu'il faut des camions froids.
Liaison chaude. On fera en liaison chaude, ça c'est possible. Et on demandera de l'aide, par exemple, aux associations. On s'était déjà rapproché des associations de livraison de repas sur Diolfi. Voilà, on s'appuiera sur le tissu local pour nous aider dans ce cas exceptionnel qui, on espère, ne se reproduira plus. Enfin, soyons un peu positifs et espérons que nous n'ayons pas à profiter de cette belle opportunité qu'il nous offre quand même. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui est pour ? Merci beaucoup. Alors, c'est encore moi donc, qui présente la délibération numéro 5. Je vais donc vous demander de voter la création donc, d'un poste provisoire de volontaire territorial en administration. Donc, le volontariat territorial en administration, c'est un dispositif national qui s'adresse aux collectivités territoriales rurales qui... Donc, cible voilà, des jeunes personnes donc de 18 à 25 ans qui seront diplômées d'un niveau Bac plus 2 et qui souhaiteraient travailler donc, en collectivité locale. Ça permet de soutenir donc, les communes sur des projets de développement et sur des outils donc, d'ingénierie. Alors, l'État annonce une aide donc, aux collectivités à hauteur de 15 000 euros qui sera attribuée sur décision du préfet. Donc, la commune de Diolfi donc, a déposé sa candidature et propose un poste à 35 heures pour une création donc, de 12 mois pour un poste qui comporterait deux missions principales. Donc, sur l'information et sur la culture. Ça sera... excusez-moi, je perds le mot, je vais y aller. Donc pour l'information, ça sera vraiment donc, un soutien à la mise en place des moyens d'information de la commune. Et sur la culture, ça sera un soutien sur la mise en place principalement donc, du comité de programmation culturelle et du comité des fêtes. Voilà. La personne voilà, devra travailler en équipe sur des outils informatiques, beaucoup. Donc, sera mis à disposition donc, un bureau, un ordinateur Et pour être attractif, parce que nous sommes quand même à Diolfi et nous appelons des jeunes, on met à disposition donc le studio de la commune. Voilà. Qu'est-ce que je peux préciser d'autre ? Oui, bien sûr, ce poste, donc là je vais vous demander de l'ouvrir, bien sûr ce poste ne sera mis en place que si nous obtenons l'aide de la préfecture. Voilà. Y a-t-il des questions ?
Tu as parlé de tu as parlé de 25 ans en âge maximum et sur le papier il y a marqué 30.
Pardon, c'est 30. Oh, bon, excusez-moi. C'est une petite
Oui, j'ai bien noté qu'il s'agissait d'un poste pour 12 mois. C'est ça. Et par ailleurs, on nous dit qu'on aura 15 000 euros de subvention sur ce poste. Combien nous restera-t-il à charge ?
Si je ne me trompe pas, environ 13 000 euros. Alors oui, alors c'est 13 000 euros sur pour vous dire, ça dépend, sera aligné sur celui de la grille de rédacteur territorial. Voilà.
Patrice. Alors, j'essaye de faire le lien, alors je sais qu'on en parlera sûrement tout à l'heure, le lien avec la réunion de cet après-midi. J'ai bien compris, donc les 50% du poste, alors pas communication, à ce que j'ai compris, il ne faut pas dire communication, il faut dire information.
Tout à fait.
Sinon, c'est on passe à l'amende, ce que j'ai compris tout à l'heure.
On fait ça tout sur les...
Donc, ça sera dans votre but, enfin dans le projet de la mise en place de la démocratie participative, parce que dans les débats, enfin dans les échanges qu'il y a eu cet après-midi, a priori, M. Mancini a des difficultés à tout faire, quoi. On est d'accord, c'est pour ça ?
Tout à fait.
D'accord.
C'était vraiment quelque chose, donc c'était un de nos piliers fondamentaux. L'information, c'est quelque chose qui est important pour beaucoup d'entre nous et pour laquelle on a beaucoup de mal à se mobiliser parce que c'est quelque chose qui prend énormément de temps et sur lequel on était en binôme avec Christophe. Moi, je le dis, entre les écoles et les ressources humaines, je l'abandonne un peu, donc il est beaucoup seul. Et voilà, c'était vraiment une aide beaucoup sur tu veux dire un mot peut-être ? Tu diras peut-être mieux.
Allô ? Oui, c'est aussi pour préciser, il y a beaucoup de choses que je fais moi, par exemple, tout ce qui est la mise à jour du site internet qui ne relève pas du rôle de l'élu, et que pour l'instant personne ne fait à la mairie, n'est capable de le faire. Donc l'idée c'est d'avoir quelqu'un qui soit capable de maîtriser ces outils-là pour la gestion quotidienne des informations de la mairie, quoi. C'est aussi ça. Pour la partie information, après, il y a une autre partie programmation culturelle aussi.
Les 50%.
Merci.
Comme l'a évoqué, permission, mon prénom.
Jacques, pardon.
Seulement, on a une vision à 12 mois.
On a une vision à 12 mois. Donc l'idée, nous, c'est on va aussi lui demander et réfléchir ensemble avec lui de la suite. Qu'est-ce qui se passera après ? Quels outils il peut mettre en place ou nous pouvons mettre en place pour fluidifier tous ces systèmes d'information ? Voilà, comment impliquer des agents, etc. Enfin voilà, il y aura toute une réflexion sur l'après, effectivement.
Bon, c'est un peu, c'est même beaucoup en tant que délégué de la transparence que je prends la parole maintenant. D'abord, pour faire le point sur ce processus, puisque cet appel à recruter a été diffusé sur une plateforme publique il y a un mois. Et cet appel a été accompagné de deux fiches qui décrivent les deux demi-postes. Et j'aurais souhaité, mais ça n'a pas été possible matériellement, j'aurais souhaité que vous ayez chacun sur la table ces deux fiches de recrutement. Pourquoi ? parce que qu'il s'agisse de la culture ou qu'il s'agisse de l'information, nous touchons à deux domaines essentiels, à haut enjeu pour les Dieulfitois, pour les visiteurs, pour notre fonctionnement. Et c'est justement à ce sujet que j'ai de très fortes réserves à exprimer. D'autre part, nous avons reçu des candidatures très, très bonnes. La limite de dépôt des candidatures, c'est demain, 31 août. Et c'est jeudi matin qu'il sera opéré un choix entre les candidatures. Autrement dit, ce n'est pas tout à fait une délibération que nous avons en ce moment. Nous avons à ratifier un processus qui est largement achevé. Enfin, il n'est pas question, évidemment, de faire marche arrière. En revanche, ce que je demande, et je l'ai dit à Marion Martin, qui a eu le grand mérite de porter sur ses épaules ses rédactions et cette publication, j'ai de très fortes réserves. Je voudrais que ces fiches de poste soient retravaillées, car il y a dedans des rubriques qui m'inquiètent énormément. Alors vous ne serez pas étonnés, ceux qui me connaissent ne seront pas étonnés.
Bernard, je pense qu'on en a parlé déjà. Non, mais ce n'est pas le lieu de pas discuter de fiches de poste de futures personnes qui sont là pour
un an. Ce n'est pas tout à fait mon opinion.
En plus, on a prévu de se voir pour rediscuter ensemble. Je pense que, voilà. À moins que tu considères ça comme quelque chose d'acquis, mais ce n'est pas le cas. Puisqu'on a accepté à ce qu'on en rediscute. Donc,
pour moi, rien n'est acquis.
Ça me paraît pas très.
J'ai plus de raisons de m'inquiéter que de me réjouir. Sur le fond, il est bien certain, nous le savons depuis le 21 novembre de l'année dernière, qu'il faut seconder Christophe, dans le sens qu'il a indiqué. Pour le reste, la direction qu'on prend m'inquiète, en particulier l'accent.
Bien entendu, écoute.
Bernard, moi aussi, je me
Oui, mais attends, est-ce que je... c'est curieux, ça. Je suis délégué à la transparence, je voudrais dire un certain nombre de choses, puisque j'estime que la transparence, dans cette affaire, n'a pas été respectée. Est-ce que je peux le dire ou pas? Si vous me dites que...
Tu viens de le dire, donc on l'a bien entendu. Bon. On l'a bien entendu. Alors, et on t'a...
Je voudrais redire, parce que je pense que c'est important, nous comprenons, parce que c'est très courant, que les municipalités veuillent valoriser leur action. Mais, quand nous nous sommes saisis de cette question, déjà avant la campagne, nous avons bien fait la différence entre ce qu'on appelle de la communication, couramment, et ce que nous souhaitons développer, qui est une information à caractère objectif, contradictoire, produite par les élus, les agents, les associations, les habitants et même les visiteurs. Et cette information, pour nous, est essentielle à la transparence de notre fonctionnement. Sans cette information-là, la transparence n'est qu'un mot. Et ce qui m'inquiète dans les fiches que j'ai eues entre les mains, malheureusement, j'aurais voulu que tout le monde ait entre les mains, c'est que ces fiches, en particulier concernant la... communication. Alors, pour valoriser les actions de la municipalité, se situe exactement à l'opposé.
Ce que je te demande juste, c'est de ne pas lire une fiche de poste que nous sommes mis d'accord ensemble pour la modifier. Je suis d'accord, enfin, on a eu cette discussion, on a échangé, je suis d'accord, enfin, là je parle en mon nom, mais je pense qu'on est plusieurs, d'accord avec toi sur nos fondamentaux, d'accord avec toi pour dire, effectivement, il y a eu des erreurs commises ou des mauvaises façons de tourner les choses, nous allons la refaire, nous allons y retravailler. Je propose qu'on la relise à ce moment-là, quand on y aura...
Alors, qu'on soit bien d'accord, Marion, c'est pas un caprice de ma part. J'essaye de défendre le respect de nos engagements. Et ce que je viens de dire pour la...
Tu le fais très bien, Bernard.
Pour la... Ce n'est dirigé contre personne, simplement je pense qu'il est dans mon rôle de temps en temps de faire des rappels. Et il en va de même pour la programmation culturelle. Le demi-poste qui est chargé d'animer le futur comité de programmation culturelle et d'animer le comité des fêtes, à mon avis, et je terminerai avec ça, comporte deux risques que je voudrais énumérer. Premier risque, se priver des forces vives et des ressources venues des habitants et de la société delphitoise. J'ai pas été le seul à le remarquer. Et deuxièmement, organiser ce que j'appellerais une déresponsabilisation des élus, voire même des adjoints, en leur donnant la possibilité sous-traiter ou externaliser des domaines.
Bernard, on n'en est pas là. Franchement,
il y a un risque.
Les adjoints, les conseillers municipaux sont au travail, sont vous, tu te rends pas compte. Viens plus souvent.
Ouais.
Franchement, c'est... Vincent est là. Je suis pas plus qu'à mi-temps, Annie est là tout le temps, Christophe passe tout le temps. On n'en est pas là, franchement. On travaille tous beaucoup, on a beaucoup de choses en cours. Tu as parlé de Christophe, tu as mis l'accent sur le fait que Christophe a beaucoup de choses à faire et a besoin d'aide. Mmh. Sur la culture, ils ont besoin d'aide, ils nous le disent depuis longtemps. Voilà, on embauche un gars pendant un an, on a peut-être fait la fiche de poste un petit peu vite, on la revoit ensemble et c'est super. Franchement, on va vers du mieux.
Bon, eh bien, attendons. Et je souhaite que, comme il s'agit de deux domaines essentiel à haut enjeu, quand on sera mis d'accord sur la rédaction, et c'est pas une affaire personnelle, mais je souhaite qu'il y ait un groupe de travail ouvert au maximum pour le refaire. Hein. Okay. Et je souhaite qu'ensuite elle soit envoyée lors de la prochaine convocation du conseil municipal.
Voilà. Ok.
Oui, c'est pas si méchant.
Non, mais voilà. Y a-t-il d'autres questions ? Alors, du coup, je vais vous proposer de voter. Qui est contre ? Qui s'abstient ?
Je m'abstiens en attendant de voir.
Qui est pour ?
Juste deux petits mots pour expliquer notre vote. Vous l'avez entendu comme nous, c'est difficile quand même de valider quelque chose qui, même au sein de votre groupe, n'est pas cadré. Donc comment nous, qui nous sentons malgré tout un petit peu à l'extérieur, pouvons valider ? Donc voilà le pourquoi.
C'est pas une question de cadre, c'est cadré sur les besoins. C'est vraiment une question de sémantique.
Je veux pas rentrer dans les détails, c'est votre problème.
Non,
pas que ça devienne le problème.
Par contre, j'ai le droit d'expliquer. Question de sémantique. Question de sémantique dans la fiche de poste. Une fiche de poste, ça se travaille, ça se retravaille, ça se réécrit régulièrement, ça s'écrit même avec l'agent concerné en accord. Voilà, c'est tout simplement ça.
Je ne suis pas en train de dire tout ça. Ce que je vois, c'est qu'il y a quand même des soucis. On entend des choses.
Voilà. Pas de problème.
Voilà. Le pourquoi.
On a le droit de voter contre.
Oui. Une dernière petite chose. Merci, monsieur Delpal, quand même, de nous apporter quelques éléments. Le fait que l'appel à candidature ait été lancé et que la date limite soit demain, on l'apprend aujourd'hui.
Je vous ai envoyé un mail.
Oui, mais tout n'est pas noté dans le mail. Et je tiens à remercier M. Delpal, malgré tout. À titre personnel, parce que...
Bon, alors, c'est encore à moi la parole. Délibération numéro 6, je vais vous proposer l'ouverture et la fermeture d'un poste d'agent d'entretien et la fermeture d'un poste d'adjoint du patrimoine d'administration. Donc, je vais commencer par la fermeture du poste d'adjoint du patrimoine d'administration. Donc, si vous vous souvenez bien, le 5 juillet, lors du dernier conseil municipal, nous avons ouvert un poste pour la médiathèque à 35 heures. Suite à des aides de l'État afin d'augmenter les horaires d'ouverture de la médiathèque. Donc aujourd'hui, je vous soumets la fermeture de l'ancien poste de cette même personne à 30 heures. Je vous propose de faire de même pour un poste d'agent d'entretien. Donc nous allons valoriser un de nos agents d'entretien qui est là depuis longtemps, qui fait régulièrement des heures complémentaires et où il y a un vrai besoin d'augmentation d'horaire. Aujourd'hui, je vous propose de faire la fermeture et l'ouverture en même temps. Nous avons eu l'accord pour éviter de faire ça sur deux conseils municipaux différents. Donc, on ferme un poste à 30 heures et nous ouvrons un poste à 35 heures donc pour cet agent de ménage. 28, c'est ça, j'ai eu un doute. C'est 28 heures, on ferme un poste donc, de 28 heures et on ouvre un poste de 35 heures pour cet agent d'entretien. Y a-t-il des questions ? Oui, c'est. Et voilà, de permettre aussi à cette personne-là, donc, qui est là depuis longtemps, d'avoir aussi une augmentation de son taux horaire et de son contrat, qui n'est pas négligeable. Comment ?
C'est le but aussi.
C'est le but aussi. Tout à fait.
Pas le taux horaire.
Le taux horaire. Non, le montant. Alors, qui est contre ? Qui s'abstient ? Et qui est pour ? Je vous remercie.
Merci bien. Délibération numéro 7 concerne la création d'un poste de chargé de mission Petite Ville de demain. C'est un serpent de mer. Depuis un an, on est sur le dossier. L'État nous avait fait miroiter une aide de 75% pendant 6 ans. Et puis de 6 ans, c'est passé à 18 mois. Et puis de 18 mois, c'est passé à 1 an. Mais voilà, les textes sont sortis, on a eu une invitation à s'inscrire, à faire le dossier, donc on peut enfin embaucher ce chargé de mission qui sera chargé d'un certain nombre de tâches autour de l'habitat et autour du commerce. Voilà, donc... attraction des jeunes et des familles, soutien à l'économie existante, développement des solidarités, conservation de l'offre de santé, utilisation de la transition écologique comme un levier de revitalisation, amélioration du cadre de vie de la ville, développement de l'offre culturelle et soutien à l'activité associative. Je rajouterai, parce qu'on en a parlé tout à l'heure, l'opération Dorémy, qui est un petit peu en attente, mais qui pourra faire l'objet d'une relance... et je pense qu'on va faire un petit peu évoluer sa fiche de poste, puisque les fiches de poste doivent être vivantes, on vient de le dire, qu'on va aussi lui demander d'être en veille sur les subventions. On a un gros manque à la commune sur la veille sur les subventions. C'est compliqué parce qu'il y a des centaines de subventions qui apparaissent, qui disparaissent, des appels à projets qui sont là pour 2 mois, pour 3 mois, de la région, de l'État, de l'Europe, du département, d'organismes privés, de la Banque des Territoires, privé ou pseudo-privé, Banque des Territoires, Fondation de France, enfin, on a besoin de quelqu'un qui soit en veille sur toutes ces subventions. Et je pense qu'on le rajoutera dans sa fiche de poste avec son accord. Voilà, est-ce que vous avez des questions ? Le financement, donc, c'est 75%, 25% par la Banque des Territoires, 50%. Par l'Agence nationale de l'amélioration de l'habitat. C'est pour un an qui, l'État nous dit, pourra peut-être être renouvelé. Bon, on verra dans un an où on en est. Le coût estimé est de l'ordre de 42 000 euros, qui serait donc pour un an, qui sera donc subventionné à 75%, donc ça fait 10 500 euros à la charge de la commune. Est-ce que vous avez des questions ? Après.
Donc, cette personne travaillera en relation avec la communauté de communes. Et je n'ai pas posé. Je sais que vous savez.
La réponse a refusé le public.
Non, c'est...
Forcément, oui. Tout ce qui est habitat et tout ce qui est économie, c'est...
Voilà, non mais voilà. C'est important qu'un lien se crée avec la communauté de communes, la compétence économique, elle est à la communauté de communes. Et derrière, je sais, j'en parle souvent, mais c'est pouvoir mettre en marche les consulaires qui apportent beaucoup sur les territoires. fonctionnaires, vous parliez de recherche de subvention. Je veux dire, si on était vraiment lié avec les consulaires sur notre territoire, les consulaires, leur mission, c'est d'être en veille de toutes ces subventions, pour les pros, mais aussi pour les collectivités. Donc c'est pour ça que ce poste, moi, il est vraiment primordial dans la stratégie du développement de Delphi. Et donc, il faudra... Enfin, j'espère beaucoup de ce poste. Donc, s'il vous plaît,
écoute,
définissez bien la fiche de poste.
Monsieur le conseiller municipal, si vous désirez accompagner, je pense que c'est sans doute Geneviève qui va être un peu... responsable de ce poste, enfin responsable, qui va accompagner ce gars, on est preneur pour un accompagnement supplémentaire.
Voilà, je voulais juste aussi souligner qu'on a signé une convention avec la communauté de communes. Donc il y a une convention signée entre la communauté de communes, la mairie et l'État sur ce programme. Voilà. Et donc cette personne est embauchée très rapidement, puisque ça a quand même duré assez longtemps la mise en route. Et à partir du 1er septembre, il démarre, donc cette semaine. Voilà. Puisqu'on avait fait déjà un appel à candidature, mais on en avait déjà parlé, et on avait retenu une personne.
Mais l'avis de l'État, de l'accord de cette subvention, est arrivé il y a 15 jours, 3 semaines, à peine 3 semaines. Donc, voilà, est-ce que d'autres questions ? Tout va bien ? Est-ce que quelqu'un est contre ? S'abstient ? Je vous remercie à l'unanimité. Délibération numéro 8, demande de subvention pour formation contre le harcèlement scolaire. Madame Camille Perrin.
Alors donc là, un appel à projet que nous n'avons pas manqué, donc de la région pour lutter contre le harcèlement scolaire. Donc voilà, c'était une toute petite fenêtre pour répondre fin juin, début juillet. Dans le cadre du travail qu'on fait au sein de la commission Enfance Jeunesse avec Marion Martin, donc on a beaucoup d'échanges avec l'espace jeune de Delphi, les équipes éducatives, le périscolaire aussi. On a fait un travail avec les habitants et les agents sur la refonte de notre projet éducatif territorial. Et donc, voilà, il y a pas mal de choses qui remontent sur des cas, des difficultés autour du harcèlement scolaire et aussi des signes ou des choses qui se passent peut-être pour les plus jeunes dès la maternelle. Et qui peuvent ensuite déboucher sur des choses un peu plus graves et qui sont visibles en tout cas au collège, mais en tout cas, voilà, cette idée partagée avec les parents, les agents et les personnels éducatifs, qu'il y a quelque chose de global à faire et de préventif aussi sur cette thématique-là. Et donc l'appel à projet proposait de trois types d'actions, des événements, des formations des adultes et des actions pédagogiques innovantes. Et donc en concertation avec nos acteurs éducatifs que j'ai cités, on a identifié des partenaires prestataires possibles pour organiser des actions en ce sens. Et donc on a imaginé avec deux associations, une qui s'appelle L'Ébullition, qui est basée à Romans, et l'autre qui est la compagnie Happy, basée à Montélimar. Donc une formation pour les adultes, tous les adultes de la communauté éducative, deux sessions de 3 jours, avec un travail sur les représentations, les discriminations, l'égalité filles-garçons, et un accompagnement à l'animation d'ateliers avec les collégiens, donc sur la gestion des conflits, etc. On a imaginé donc des événements grand public avec 2 soirées de théâtre forum. Donc le théâtre forum, c'est quand on implique en fait les participants, le public, dans des moments de théâtre, donc à partir de situations vécues, et on les fait en fait intervenir pour imaginer d'autres dénouements possibles. Donc ça permet à la fois de visibiliser des choses qui se passent et de travailler sur les solutions qu'on peut mettre en place avec donc le public. Donc là, on aurait deux soirées sur le harcèlement et le cyberharcèlement et les stéréotypes de genre, qui inclurait un travail préparatoire avec les élèves. Et enfin, dernière action, c'est Action pédagogique innovante. Là, il y aurait 21 séances de théâtre forum, donc toujours ce même dispositif, dans les écoles primaires de Dieulefi, donc Le Ginchet et Sainte-Marie, soit 3 séances pour chacune des classes. Donc voilà, on a essayé vraiment de s'adresser à tous les publics, tous les enfants, tous les âges, et en partenariat donc, avec les différents acteurs, et de financer à 80% ces actions-là pour cette année, et puis ça pourrait ouvrir le champ d'action sur les années futures dans ce domaine-là. Est-ce qu'il y a des questions ? Non. Alors, je vous propose de passer au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Et qui est pour ? Ok, merci.
Merci. Marc, un petit mot sur des renforcements de réseau électrique.
C'est technique. De délibération un peu, oui, technique, un peu habituelle, sur des renforcements de réseau, qui sont programmés par le SDED. Première sur le renforcement du réseau basse tension à partir du poste pompier. C'est une opération d'électrification pour l'alimentation des bâtiments de ce secteur qui passe de 160 à 630 kV/A. La dépense est de 3 992,78 €. Dont 190,13 € pour les frais de gestion, et les financements mobilisés par le SDED sont de 3 992,78 €. Donc, sont probablement totalement pris en charge par le syndicat d'électrification. Il faut que je fasse un vote séparé pour chaque délibre. Donc, je sais pas, est-ce que vous avez des questions ? Oui. Oui, Alain.
Sur le document qui est affiché, complètement en haut, il y a écrit 250. Alors, on ne sait pas trop si
c'est. Non, c'est 630.
Oui, c'est 630.
Ouais. Ah oui, ben, ça va le faire.
Oui, oui. C'est le.
Le 630.
Les deux sont 630.
Moi, j'ai inversé peut-être la 0. Non, c'est bien le premier, c'est le poste qui est, c'est le poste en fait qui alimente la viale avec un risque.
Oui. Une faute de frappe sur le.
Ouais, c'est bon. Ce qui est important de comprendre, c'est quand le SDED programme un renforcement de réseau comme ça, c'est parce que les transformateurs sont proches de la surcharge. C'est-à-dire que ce qu'ils craignent, eux, c'est qu'à un moment de surconsommation, pour une question de froid intense ou au contraire même de chaleur avec les clims, et puis de consommation diverse, qu'on se retrouve en rupture du poste. Donc voilà, donc ils font régulièrement des renforcements de réseau. Donc qui vote pour la 09 08 21 qui est d'accord ? Qui est pour ? Après, on a exactement la même problématique donc pour le poste de Graveron. Donc avec une dépense de 2 732,49 €, dont 130,12 € pour les frais de gestion, qui sont pris en totalité par le STED. Voilà, donc qui est pour ? Et qui s'abstient, je pense, personne.
C'est la vie, oui.
Ça faisait la totalité. Je vous remercie.
Merci Marc. Une délibération concernant des frais de communication sur l'exposition de cet été à l'espace culturel de la Halle. Madame Liane, je vous laisse la parole.
Oui, Annie, s'il vous plaît. Donc, je vais vous donner quelques éléments à ce sujet. Donc, parmi les nombreux événements qui ont jalonné cet été sur le plan culturel et animation, nous avons eu le plaisir d'accueillir une exposition de peinture et de sculpture qui s'est appelée Rencontre atypique, avec 6 artistes, dont 2 locaux, Alain Noël-Marie et Alexandrine Aimé, en pleine période touristique, donc les trois premières semaines d'août. Il y a eu 1240 entrées. Nous avons pensé que c'était important de soutenir ce type d'exposition pour l'attractivité touristique et artistique de Dieulefi. Et pour cela, donc, nous avons souhaité participer aux frais liés aux affiches et à une petite participation au pot du vernissage. Voilà, tout ça pour un montant avoisinant les 300 euros, 297,93 très précisément. Qui est contre ? Des questions ? Des questions ? Excusez-moi. Pas de questions. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui est pour ?
Abstention.
Abstention. Je vais aller un peu vite. Tu veux que je récapitule ?
Non, c'est pour l'abstention que c'est.
Ah, pardon. D'accord. Merci.
Bien. Délibération suivante, je laisse la parole à M. Blaise. Jacques.
Excusez-moi, c'est important ce que dit Vincent par rapport à son abstention, parce que j'ai oublié de dire qu'ils ont payé la location de la Halle. Hein, ce n'était pas offert comme ça. Hein. Nous sommes soumis au règlement intérieur, cette location de la Halle a un coût. Voilà, et donc c'est bien de comprendre les abstentions.
Je n'ai pas compris mon retard.
Qu'est-ce que tu n'as pas compris ?
Il y a eu une location, certes, mais quel rapport avec le fait que l'on...
Et ça, c'est... Avec le fait qu'il s'abstient ?
Oui, voilà, vas-y, ça s'abstient.
Oui, non, c'est que, en fait, au fond, j'aimerais. Enfin, c'est que je ne coupe, si je m'abstiens, c'est que je ne comprends pas en quel honneur on aide ces artistes exposants à la Halle et pas d'autres, en fait, tout simplement, quoi. Est-ce qu'ils sont juste tombés au bon endroit au bon moment ou... Enfin, voilà, je ne trouvais pas forcément ça très équitable, pour le coup. Et après, ça, c'est un autre point, mais j'ai pas forcément aimé le comportement d'un des exposants non plus. Et voilà, je trouve qu'il ne méritait pas forcément non plus cette aide, du coup. Mais voilà, après ça, c'est un avis tout à fait personnel.
Voilà, c'est un petit peu différent de ce que vient de dire Annie.
Oui, c'est ça. Et le but, c'est de favoriser ce type d'exposition et qu'il peut en avoir une autre l'année prochaine, d'autres artistes, par roulement, etc. Le but, c'est évidemment pas de privilégier un artiste ou 6 artistes. Et au niveau comportement, c'est autre chose.
Bien, donc il s'agit de la délibération 12. C'est l'élection des membres élus du CCAS. Alors vous allez me dire, mais les membres élus du CCAS, ils ont été élus. Oui, mais l'une des membres de ce CCAS a donné sa démission et donc il faut procéder à son remplacement. Alors, dans un souci de simplification, on aurait pu penser qu'il suffisait de voter pour un nouvel élu qui remplacerait celui qui est parti, mais c'est beaucoup plus complexe que ça. Il s'agit d'un scrutin de liste, et dans la mesure où il y a c'est un scrutin de liste, il n'y aurait pas normalement à revoter. C'est le suivant de liste qui prendrait... place du démissionnaire, de la personne démissionnaire. Mais en réalité, ce scrutin de liste qui avait eu lieu au moment où on a constitué le CCAS, à la fin de l'été dernier, ce scrutin de liste, lui, on avait fait une liste unique de manière à pouvoir accueillir un élément de... j'allais dire minorité, mais maintenant ils disent opposition, donc un élément de l'opposition, et la liste était complète avec 6 personnes, il y a 6 personnes à désigner, et il n'y avait pas de suivant. Donc à partir du moment où il n'y a qu'une seule liste et qu'il n'y a pas de suivant, eh bien il faut revoter la totalité des 6 membres élus du CCAS. Donc, on vous fait la proposition de voter pour une liste unique de candidats qui sont Madame Valérie Debardieu, Madame Nadia Nelson, Madame Vanessa Huguenin, Madame Nicole Marcel, donc qui prend la place de la démissionnaire, Monsieur Jacques Lèze et Monsieur Alain Chauville. Alors, il faut procéder à un vote, à bulletin secret, etc. pour que ce soit. Mais ça va se faire, je pense, rapidement. Y a-t-il des questions ? Maintenant. Alors, une petite précision, c'est que le CCAS sera complété par la désignation d'une 6e personne non élue, puisque Nicole Marcel, qui était non élue, est devenue élue maintenant, et qu'elle va faire partie donc au titre des membres élus, et donc il faudra désigner une 6e personne parmi les membres non élus. Et là, c'est le maire qui procède à la désignation, et nous sommes parfaitement libres, puisque les 4 postes qui correspondaient à différents types d'associations sont pourvus, et les 2 postes de personnes qui n'étaient pas nécessairement dans des associations, bon, c'est sur ce poste que le maire désignera la 6e personne. Y a-t-il des questions ? C'est un peu compliqué, mais en réalité, c'est très simple. Ah oui, c'est, c'est obligé d'être un bulletin secret avec le scrutin de liste, etc. Voilà.
Je peux peut-être dire un mot sur le sans doute futur sixième personne déléguée nommée donc par moi-même. Je trouve que le lien 26 est de plus en plus investi sur la commune. On parle de reprendre et gérer l'espace France Service. Donc je pense que ce serait assez logique que le lien 26 soit convié à la table du CCAS, un de ses membres. Voilà. C'est en cours de mise en place. J'appelle au vote Monsieur Patrice Benoît, Monsieur Sylvain Jean, pour 2 voix, puisque Nathalie Paulin, Madame Nadia Nesson, Madame Vanessa Huguenin. Madame Camille Perrin, merci. Geneviève Morenas. Marc Ebrard, Frédéric Sten, Madame Marion Martin pour 2 voix, Magali Miani, Monsieur Christian Bussin, qui ne veut pas rentrer, Monsieur Jacques Glaise, Madame Nicole Marcel. Oh, je ne suis pas obligé de vous dire, vous connaissez. Ne votez pas 2 fois. Si, je suis obligé. Madame Laurence Girard, Monsieur Alain Chauville, Monsieur Bernard Delpal, Madame Marie-Madeleine Leclerc, Monsieur Vincent Domas, Madame Annie Liagre et Valérie Debarbieu, merci. Et Monsieur Christophe Mancini, à voter.
Nous sommes en plein formalisme, mais bon, c'est comme ça que ça doit se dérouler. Vous allez entendre beaucoup ça, je crois. Liste complète. 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 Et une enveloppe vide. Abstention, blanc, nul. Donc 21, la liste est élue par 21 voix. Elle est élue par 21 voix, il y a un blanc. Un blanc.
Merci. Excusez-nous pour cette partie un peu formelle, mais voilà, c'est la règle. La délibération suivante concerne une décision budgétaire modificative. lors de l'achat de la nouvelle tondeuse pour un montant de 12 392 €. Le concessionnaire vendeur nous rétrocède une somme de 300 € pour la reprise de notre ancienne tondeuse. Donc ces 300 € doivent être intégrés au budget, ils ne l'étaient pas. Donc en dépenses, on augmente les constructions de 300 € pour pouvoir les mettre en recette sur les produits de cession. Voilà, ça paye les affiches. Voilà, est-ce que quelqu'un, vous avez des questions? 300 € qui passent d'un compte à l'autre pour équilibrer cette reprise du concessionnaire de l'ancienne tondeuse. Pas de questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Je vous remercie. Voilà, il nous reste donc les différentes décisions que je me suis permis de prendre depuis le 5 juillet. J'ai accepté l'indemnisation par l'assurance Groupama des dégâts suite au sinistre place de la Bémanière pour un montant de 4 402,45 €. J'ai signé un contrat d'assurance avec la compagnie MMA pour la responsabilité de la civile de la commune pour un montant pour les véhicules de 4 544 €, pour le patrimoine de la commune 12 875 €, et pour la responsabilité civile de la commune 6 022 €. J'ai signé un avenant au contrat de maîtrise d'œuvre avec l'ONF pour la création d'un chemin PMR à Chapelle Saint-Maurice pour un montant de 3 400 €. J'ai clôturé la régie périscolaire maternelle ainsi que la régie périscolaire primaire, et j'ai créé une régie périscolaire pour les deux écoles. On regroupe et on simplifie les régies communales. J'ai demandé une analyse de sol pour la construction du skatepark avec AGSOL à Valréas pour 1295. J'ai signé un contrat de maîtrise d'œuvre pour le skatepark avec l'atelier MV, dont on a parlé tout à l'heure, pour un montant de 19 500. Merci. Nous avons clôturé la régie concert, la régie produits divers, la régie location de salles et la régie repas banquet. En fait, il y a une simplification qui est demandée par le Trésor public autour de toutes ces régies qui sont une source de papiers administratifs sans fin, et donc c'est simplifié, et ce sera des factures qui seront faites à partir de dorénavant. Il nous reste les questions diverses. Je voulais dire juste un petit mot, tout à l'heure Patrice l'a évoqué, on a eu une réunion cet après-midi, entre midi et 17h, avec trois personnes qui venaient de Saillant, l'ancien maire de Saillant, et deux personnes qui ont été assez proches de la liste, qui étaient des représentants, des citoyens, pour faire le point avec eux de nos expériences. Alors la leur est évidemment beaucoup plus importante que la nôtre, mais enfin on a aussi une expérience sur la participation citoyenne, et on a eu un échange extrêmement intéressant, fructueux. On était presque tous présents. Patrice avait eu le bon goût de venir participer aussi, donc il a pu aussi voir un peu les échanges. On a prévu de vous en faire un petit compte rendu au prochain conseil municipal. Mais voilà, ça s'est terminé à 17h30. À 17h30, on était encore en train de discuter sur le trottoir, donc on fera ça pour la prochaine fois. J'avais j'aurais peut-être un petit mot à dire, puisque j'ai la parole, je la garde, sur la lettre des 5 anciens membres de l'équipe qui ont démissionné depuis un an. Donc je voulais d'abord m'adresser à eux, je vois qu'il y a deux d'entre eux qui sont là, que je salue. D'abord, vous le savez, mais je vous le dis, j'ai évidemment regretté infiniment cette suite de démissions. En même temps, je suis aussi un peu en colère parce que j'ai lu votre texte, que j'ai eu l'impression de passer le temps qu'il fallait pour parler avec vous individuellement. Bon, il est fait état du fait que vous n'avez pas été reçu. Je ne sais pas, Paulette, je l'ai vu, huit fois. Robert, on a beaucoup parlé. J'ai essayé de faire au mieux. Je ne suis pas parfait. C'est des situations qui ne sont pas faciles à gérer pour un chef d'équipe. J'ai eu l'impression qu'on travaillait très bien ensemble pendant toute la campagne. Et puis, depuis un an, c'est vrai que c'est plus difficile. Voilà. Je voulais dire un mot sur l'intervention de Jacques de la dernière fois, qui a été peut-être un peu un des catalyseurs pour que vous écriviez ce texte. C'est vrai que ça n'a pas été... Je n'ai pas ressenti pareil la non-prise de fonction de Laura Briotta ou de Gérard que la démission de Paulette, avec qui on a travaillé pendant un an, ou la démission de Robert, avec qui, j'ai envie de dire, il y avait des raisons de... On s'est bagarré avec Robert, on n'a pas été d'accord sur un certain nombre de choses, et... Voilà, je l'ai regretté, hein, mais c'était un fait. Voilà. Je voudrais dire un mot sur eux, à mes collègues conseillers municipaux. Je tiens à remercier, parce qu'on n'en parle pas souvent, mais il y a 4 personnes qui ont accepté de venir, de remplacer les démissionnaires. Et ces 4 personnes, elles ont... Voilà, elles travaillent, elles ont pris leur place, certaines depuis pas très longtemps, mais la place, elles se font leur place, elles travaillent avec toute l'équipe, et je trouve que, je voulais les remercier. On a essayé de comprendre, de réfléchir, de comprendre ce qui a motivé vos départs. J'ai essayé, on a essayé, forcément on a beaucoup parlé. C'est pas très facile de faire un lien entre tous, mais bon, manifestement vous l'avez fait. On l'a pas fait formellement. Je sais que Bernard nous l'a demandé plusieurs fois. C'est pas évident de revenir là-dessus et de faire des tours de table sans fin autour de cette aventure. Voilà. Et puis la dernière chose que je voulais dire, c'était à l'attention des Diolfitois. On a été élus avec un projet, un programme ambitieux, difficile à mettre en place, quelque chose où on engage la commune pour les années qui viennent. Je pense que c'est ce qui est important. Moi, je regarde vers l'avenir. Évidemment, je regarde un peu aussi vers le passé, mais je regarde vers l'avenir. On est là pour travailler, pour Diolfi. Notre énergie, elle est mise au service de cet avenir. Mon énergie, notre énergie à tous. La réunion de cet après-midi en est un bon exemple. Il y a beaucoup à faire et j'ai envie de dire que vous nous attendez, vous... Diolfitoi qui nous regardait par la petite caméra. Voilà, merci. D'autres questions, Yves ?
Juste un petit compliment.
On s'est mis d'accord tout à l'heure, donc ça ne sera pas une surprise. Oui, effectivement, à 5 reprises, j'ai demandé que dans la plénière, c'est-à-dire les réunions qui en principe réunissent tous les membres de la majorité, nous examinions ces démissions et que nous essayions de les expliquer peut-être en nous remettant en cause. Ça n'a jamais abouti. Je le regrette. J'avais également demandé, monsieur le maire en était d'accord, que publiquement nous rédigions un texte pour dire aux 5 démissionnaires que nous leur gardions notre estime, notre confiance, tout en nous inclinant devant les décisions prises. Malheureusement, ce texte n'est jamais paru et je le regrette aujourd'hui. Enfin, je voulais dire que lors du précédent conseil municipal, le 5 juillet, suite à une intervention de M. Sylvain Jean, des propos ont été tenus vis-à-vis des démissionnaires, dont certains ont été ressentis par ces mêmes démissionnaires comme blessants ou injurieux. Je tiens à dire que ces propos, ressentis comme injurieux ou blessants, n'engagent que les personnes qui les ont prononcés. En aucun cas, ils ne permettent de déterminer une étude commune de la majorité vis-à-vis de ces démissions. Je tiens à le dire, car nous n'avons pas réussi, comme vient de le rappeler monsieur le maire, à analyser collectivement ce qui s'est passé.
On ne l'a pas fait formellement.
On ne l'a pas fait formellement. Je pense que c'est très difficile. Parce que, et j'aimerais quand même qu'un jour, ce texte rendant hommage, car, et je vais terminer par là, les 5 démissionnaires ont tous été cofondateurs de la liste Dieu le fit ensemble. Osons une transition heureuse. Alors, je ne sais pas si pour eux la transition était si heureuse que cela, mais à l'époque, nous leur trouvions des vertus, des compétences, et je ne comprends pas par quel mécanisme on a pu arriver, comme le 5 juillet, à dire qu'ils n'avaient ni compétences ni sens de l'engagement. C'est une chose qu'il faudra éclaircir, parce que pour moi, je ne me contente pas de ce vide.
Merci.
J'aimerais ajouter quelque chose, si vous voulez bien. Pour moi, ce n'est pas possible d'analyser les comportements, parce que ça ne serait pas respectueux pour les personnes concernées. Je ne vois pas au nom de quoi je saurais analyser des comportements. Par contre, que ça soit une porte d'entrée vers une remise en question de notre attitude, pourquoi pas, on a à s'enrichir aussi de cela. Et par rapport à ça, moi je mettrais le zoom sur quels sont les besoins des élus. Vous nous avez fourni une porte d'entrée par rapport à regarder quels sont nos besoins. Alors, on en a parlé cet après-midi justement avec l'équipe de Saillant. Pour moi, un besoin en tant qu'élu, c'est d'être entendu, c'est d'être compris, et c'est que mon action ou ma réflexion ait un impact, quitte à ce que je modifie cette réflexion ou cette action, parce que d'autres me montrent qu'elle n'est pas appropriée. Lorsqu'il n'y a pas ce besoin reconnu, il y a quelque chose d'une douleur, on va dire d'une souffrance ou d'un stress, qui est très dommage par rapport à la dynamique. Et donc, je voudrais vraiment qu'on puisse réciproquement être dans cette cohésion d'équipe qui peut, où on peut s'entendre, se comprendre et aussi se confronter, parce que c'est une dynamique, la confrontation, mais ça passe au départ par une écoute et une compréhension de ce que vit l'autre, de ce que souhaite l'autre. Voilà, nous sommes là pour vraiment progresser. Et parfois, moi, j'ai ressenti beaucoup d'impuissance par rapport à ces personnes qui ont démissionné. J'ai essayé de les rejoindre en leur proposant un temps d'écoute, en leur proposant un coup de fil. Certains n'ont pas pu prendre cette balle et je le regrette. Je n'ai peut-être pas su bien m'y prendre ou je n'étais pas la bonne personne qui pouvait les entendre. Voilà, donc je sens cette impuissance, on a fait le peu qu'on peut, et parfois on peut peu. Voilà, merci.
Merci, merci Annie. Un mot. On donnera la parole au public après, c'est dans l'ordre des choses, mais pas de problème. Oui, Patrice.
Alors, oui. Alors, justement, tous ces propos qui viennent d'être tenus, ça fait lien un peu avec ce que je vais vous dire là et ce que j'ai alerté plusieurs fois sur justement être avec les gens et surtout avec nos associations. La dernière fois, j'ai parlé du Playmobil, bon, etc. Il y a eu des débats, on ne va pas revenir dessus, mais c'était la façon dont ça a été mené, ça a heurté les personnes volontaires dans leur choix d'animation de Diolfi, qui sont défendables, débattables, peu importe. Aujourd'hui, on arrive aussi sur un autre événement, alors je suis désolé, phare pour notre territoire, qui est le rallye du Picodon. Je ne veux pas faire débat si ce sport doit exister ou pas. C'est pas ça. Mais c'est la façon dont le sujet est traité. Vous aviez annoncé à votre élection, comme soutien à cet événement, que vous ne vouliez pas l'abattre, etc. Soutien, Marc Hébérard, monsieur le maire, vous avez tenu ces propos. Et vous vous êtes arrangé, négocié avec cette association sur une façon de créer l'événement, et surtout, vous avez dit, bon ben voilà, on veut moins vous accompagner. Et ça, je ne le critique pas, c'est votre choix, et je fais un lien avec ce qui a été dit cet après-midi, le maire de Saillant, un choix politique. Les citoyens veulent savoir où vous voulez amener notre cité. Donc, un choix politique, avec vos idées que vous avez le droit de défendre, et ça va amener du débat, et ça, on est pour. Par contre, lorsqu'on a des personnes qui s'investissent depuis des années et qui ont besoin de la parole de gérants, de chefs de cité, ils ont besoin de ça. Et la commune s'est engagée pour les accompagner avec des nouvelles négociations de commun. Et à 10 jours, les choses changent. J'ai été interpellé par Damien Pellegrin qui m'a envoyé votre courrier. Bon, voilà, on ne change pas les règles à 10 jours. Si, vous étiez d'accord pour...
Alors juste, on n'a pas du tout changé les règles. On est parti sur le fait que on aidait le rallye à hauteur de 13 000 euros.
Oui,
la subvention 10 000. Plus, 10 000. La subvention plus les aides des services techniques. Et on a décidé ensemble, en conseil municipal, de diviser cette aide et d'enlever un tiers. Voilà. C'est compliqué pour les services techniques. Le tiers qu'on enlève, c'est au niveau des services techniques.
Oui,
c'est-à-dire
oui.
qu'on a décidé de garder la subvention.
Oui. Mais quand je ne parle pas d'argent, je parle de l'aspect infrastructure.
On reconnaît quand même qu'on fait des pas pour que ne
oui.
pas mettre en péril.
Quand vous dites un tiers.
Donc, par souci de simplification, je vais proposer que le matériel, il aille le chercher aux services techniques, donc les services techniques n'interviennent pas dans la mise en place du matériel, et que par contre, les services techniques s'occuperont d'aller rechercher ce matériel.
Mais ça, je suis d'accord, c'est totalement vrai. Mais on ne prévient pas à 15 jours de l'événement.
On ne prévient pas
Je veux dire, cet événement, vous avez défini des façons de faire, un fonctionnement. À 15 jours de l'événement, dites maintenant, on vous fournit pas les camions pour aller chercher le matériel, on ne prend pas le prix des sanitaires, etc., etc. Ça s'est déterminé maintenant. Je veux dire, c'est ça qui heurte les gens. On ne change pas un contrat à 15 jours de l'événement. Hormis si vous, avec un courage politique, vous dites, d'une façon ou d'une autre, on ne veut plus d'activités comme celle-ci sur notre territoire. Mais ça, à un moment, il faudra nous le dire clairement. Pas nous dire, oh non, mais dans le processus des élections, on est d'accord, et après on change tout. C'est ça qui heurte. Et ce problème que je cite là, on le retrouve dans votre management de groupe. C'est tout. Et c'est juste un constat. Après, vous faites comme vous voulez. Mais moi, je pense qu'humainement, il y a des choses à ne pas faire, c'est tout. Merci.
Damien est parfaitement au courant.
Oui. Je suis pas d'accord avec ce que tu dis. Les choses, on était avec Christian, Magali et moi dans le bureau de Christian, dans le bureau du maire. C'était au mois de, je sais pas, au printemps, et ça avait été parfaitement exposé. Damien était totalement au courant de ce qui allait se passer. Qu'on lui avait dit, les moyens mis à disposition par les services techniques seront réduits, ils seront à hauteur de, il savait que c'était après à lui de choisir. Il demandait ce qu'il voulait, plus de main-d'œuvre, des bancs, des tables, des tractopelles, des ce qu'il voulait, et qu'il y avait une limitation. Et ça, il le savait parfaitement.
Et on l'a reçu quatre fois. Enfin bon, on a quand même beaucoup discuté avec lui.
De manière très conviviale, Damien, que d'ailleurs je respecte vraiment son travail.
Et je vous rappelle.
Et on l'a vraiment bien reçu, on a bien expliqué les choses.
Et je vous rappelle qu'à aucun moment on a dit on veut plus qu'il y ait de rallye. On parle de l'argent public, de l'utilisation de l'argent public. Et c'est vrai qu'on j'en ai reparlé avec lui. Marc n'était pas là, Magali non plus, mais on était tous les deux dans le bureau. C'est vrai que l'utilisation de l'argent public pour des activités comme ça, ça pose problème. Ça pose problème. Donc voilà, c'est une réalité. Et je l'encourage à en prendre conscience.
Alors moi j'ai envie, puisque le débat est ouvert sur cette question de comment on prend soin ou pas, de revenir un peu sur Plémodrome aussi. Et je suis tout à fait preneur de tous les conseils que vous pourriez nous donner pour que cette fluidité relationnelle soit meilleure. Mais je veux quand même souligner le fait qu'il y a un an, plus d'un an, on avait rencontré Fanette Bell sur son projet Plémodrome, et que dès cette rencontre-là, il lui a été exposé la situation difficile de la municipalité de soutenir un événement commercial avec un gymnase mis à disposition, etc. Donc tout ce qu'on a dit la fois dernière. Donc il n'y a pas eu de véritablement de surprise, encore une fois, là non plus. Et je comprends ensuite qu'elle en soit désolée, qu'elle réagisse, qu'elle vienne vous voir. Tout ça est compréhensible, mais qu'on ne nous dise pas qu'on prend les gens par surprise. Je ne crois pas. Franchement, vraiment, on fait un travail en amont qui est long et qui est délicat. Maintenant, on n'est pas parfait, c'est vrai.
Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, peut-être Marie-Mathe, tu... Non, je ne te prends pas par surprise. Ce serait bien que tu dises un petit mot sur les... Non, mais c'est aussi la vie de la commune et il n'y a pas de problème.
Il nous a paru intéressant de faciliter les rapports entre la commune et les habitants. Donc, dès le mois de janvier, moi je suis arrivée en décembre à la municipalité, dès le mois de janvier, j'ai travaillé avec d'autres sur la notion de quartier, avec Jacques notamment. Et à partir de là, on a déterminé 10 quartiers à Dulphy et il nous a semblé intéressant qu'il y ait des référents de quartiers. Vous avez vu dans le bulletin municipal, le dernier bulletin, ces quartiers, les référents de quartiers et comment les joindre. À partir de là, il nous a semblé important de donner une suite à ceci, c'est-à-dire de favoriser l'information dans les quartiers. C'est pour ça que j'ai demandé au service technique de réhabiliter les anciens panneaux d'affichage et nous avons complété par l'achat de 9 panneaux vitrés dont il en reste 2 à poser et qui sont maintenant prêts à fonctionner. Ces différents panneaux, que ce soit les anciens panneaux d'affichage sans vitrine, sans rien, et les nouveaux panneaux vitrés sont à la disposition de tous, dans tous les sens. C'est-à-dire, la commune va vous donner des informations sur ces panneaux, les horaires de la médiathèque, de la déchetterie, de la navette, de ceci, de cela. Nous nous occupons un peu de donner toutes ces informations sur ces types de panneaux. Ces panneaux seront aussi à votre disposition, même les vitrées. Les vitrées, chaque référent est responsable d'un panneau vitré et a une clé. Le référent va indiquer à l'intérieur du panneau c'est sans contact et il sera possible de le joindre si vous voulez annoncer un troc de plantes, une location de matériel à partager avec quelqu'un, etc., etc. Ces panneaux sont à notre disposition dans tous les sens, population envers la mairie et la mairie envers la population. C'est aussi un objectif de convivialité et de créer des ambiances de quartier, etc. Voilà. Faisons-en bon usage. Il y a des quartiers déjà où ça fonctionne bien. Au cours de l'été, moi, j'ai remarqué que les panneaux, style horaire de navette, horaire de la médiathèque, etc., de la piscine et compagnie, ont été respectés. Il y a eu un partage de l'espace d'information. Et ça, je trouve ça super. Je crois qu'on peut faire, on peut utiliser ces éléments, ces panneaux, dans vraiment un sens très intéressant pour tous. Voilà.
Merci.
Oui, simplement, pour en terminer, rapidement, en matière de vaccination, vous avez sans doute vu qu'un rappel pour les personnes qui ont été vaccinées peut avoir lieu à partir de 65 ans. Le moment venu, nous serons en relation avec l'ARS pour voir ce que l'on veut faire en matière de centre éphémère sur Biolfi, mais ça nous porte quand même, puisqu'il y a un délai minimum de 6 mois. La première vaccination à Biolfi a eu lieu le 9 avril, donc ça nous met au 9 octobre. Donc c'est sans doute à mi-octobre et fin octobre que l'on verra si on peut faire une opération relativement rapide pour ce rappel.
Stéphane, levez les bras au ciel. Je ne suis pas sûr qu'il soit tout à fait enchanté. est-ce qu'il y a d'autres...
Oui. Il y a quelques questions. Oui, j'aimerais rebondir sur ce que vient de dire Marie-Madeleine concernant les quartiers. C'est très bien. Par contre, il faudrait essayer de ne pas en oublier. La rue Gabriel-Péry, a priori, a été oubliée. Elle n'a pas de référent. La personne est passée quand même 3 fois en mairie. On lui a dit c'est Nathalie Paulin. Vraisemblablement, Nathalie Paulin n'est pas au courant que la rue Gabriel-Péry fait partie de son périmètre, et cette rue, je ne la vois nulle part, alors je ne sais pas. Donc il serait bien et bon de
préciser.
De préciser, oui.
Sylvain, oui. Ça n'a pas été par rue. La détermination, ça a été des périmètres. Oui. On s'est servi beaucoup des rues, ou des ruisseaux, oui. Ou des rivières, etc. Mais on n'a pas fait une dénomination des rues.
Oui.
Moi, cette personne...
qui habite rue Gabriel-Péry.
Oui, elle a appelé la mairie.
Elle est passée,
J'ai rappelé cette personne-là 3 fois, 4 fois, le jour même, le lendemain. J'ai laissé des messages, elle ne m'a jamais eu au bout du fil.
D'accord.
Pour lui expliquer que la rue Gabriel-Péry est bien dans une zone.
D'accord. Mais il faudrait lui donner le nom du référent, parce qu'on lui dit Nathalie Bonin, mais ça ne correspond pas à ça.
Ben, je recherche et je te dis.
Super. Bon, ça, c'est la première chose. Ensuite, j'aimerais revenir sur une chose qui me paraît super importante. Alors, on a reçu un bulletin municipal superbe, hein, bravo. Bravo pour ceux qui ont travaillé dessus. Par contre, j'ai deux, trois bricoles à faire remonter. La première qui me tient à cœur, et c'est pas la première fois que j'en parle, et lors de ma précédente intervention, on m'avait dit oui, c'est prévu, t'inquiète pas, ça y sera. Ça concerne tout simplement... Les petits mots que l'on pourrait mettre, ou penser un petit peu aux personnes qui nous ont quittés et qui ont œuvré pour la collectivité, je répète leur nom une nouvelle fois, et j'espère qu'on ne dira pas c'est une maladresse ou c'est un oubli, parce que c'est plus que ça, Robert Catalan et Yves Bompard. Ces deux personnes ont travaillé durant des années pour la collectivité. J'ai beau regarder, je n'ai encore rien trouvé sur eux. Je pense que ces gens-là, je pense à leur famille, je pense aux Diolfitois qui les ont connus et qui ont su et vu ce qu'ils ont fait pour nous, parce qu'ils ont fait des choses pour nous. Je trouve qu'ils méritent un petit peu plus de considération, mais plutôt un peu plus de respect. Donc, qu'on ne dise plus « c'est un oubli, on a été maladroit », non, faites-le, faites des choses.
écrivez-le, mais faites ce que vous voulez, mais au moins ayez le respect de parler de ces gens-là. Je pense que c'est la moindre des choses que l'on puisse faire, ou que vous puissiez faire, puisque c'est vous qui avez la main là-dessus. Dans le même registre, et là je suis porte-parole du FSE, foyer socio-éducatif du collège, un article de M. Pascal Fiacre, qui nous a malheureusement quitté, Pascal Fiacre, que tu devais connaître, a été longtemps prof de PS au collège de Dulphy. Le FSE a fait passer un article, qui est bien sûr retranscrit, pas souci, avec une photo. C'est important de mettre une photo, surtout que sur sur la page, il y a la place. Faites-le en sa mémoire, faites-le pour sa famille, faites-le pour tous ceux qui l'ont apprécié. Et les Dulphitois sont nombreux, et moi le premier, à avoir apprécié Pascal Fiacre. Donc c'est la moindre des choses que de leur rendre hommage. Voilà. Ensuite, retour d'habitants, toujours pareil, de la rue Gabriel-Péry. Donc la fête des pompiers a eu lieu, super. Par contre, depuis le départ des forains, les poubelles n'ont pas été remises à leur place. Donc pour eux, c'est compliqué. Le recyclage, pardon, n'a pas été remis à sa place. Donc si on pouvait faire quelque chose, rapidement, ce serait bien. Voilà, ça, c'est les petits... À la gare, bien sûr. Donc ça, c'est la première, déjà, une autre chose. Et puis, pour terminer, alors d'abord, je tiens à te remercier, Marion, des infos que tu nous as fait passer. Parce que j'ai vérifié, enfin, je les avais lues. Bon, ce que tu m'as dit tout à l'heure, c'est pas tout à fait noté comme ça, mais c'est pas grave, je t'en veux pas et c'est pas grave. C'est moi qui comprends peut-être pas. Par contre, merci pour les infos que l'on a. Mais j'ai une nouvelle fois une inquiétude. Alors, une inquiétude, ça a été, comme l'a évoqué tout à l'heure M. Delpal, une inquiétude sur les élus. Maintenant, moi, j'ai une inquiétude au niveau des agents. Je m'aperçois qu'il y a une fuite de nos agents. Alors, je sais pas, je lis et je le sais, puisque je les ai rencontrés. Me voir que deux personnes ont demandé des mises à disposition pour reconversion professionnelle. Alors moi, ce que j'aimerais savoir, mais qu'est-ce qui se passe pour que les agents nous fuient comme ça? Je ne sais pas, j'aimerais avoir votre version. Voilà, parce que moi j'en ai une et j'aimerais avoir la vôtre. Voilà, je pense que c'est important. Voilà, ça c'est encore jamais vu, surtout qu'on voit en plus que c'est à des postes clés. Responsable du gymnase, alors je sais ce qu'il veut faire. Responsable des espaces verts. L'espace vert, ça devrait quand même, quelque part, un petit peu vous travailler. Enfin, je sais pas, moi le premier, ça me travaille. Les espaces verts, je vous ai fait part un petit peu de mes inquiétudes aussi à ce niveau-là. Et bravo pour le travail qui a été réalisé, c'est super. Mais voilà, mais pourquoi les gens fuient? Voilà. Ils fuient pas?
Ben non, ils fuient pas, mais je peux pas vraiment répondre à cette question parce que c'est des choses très personnelles et trop personnelles, et ce n'est pas à moi d'exposer leur raison de départ. Il n'y a pas, à mon sens, pour avoir discuté avec pas tous, mais avec un peu, connaître les raisons d'autres, même sans discussion, je ne ressens pas ça comme une fuite, en tout cas. Alors, après, peut-être que les sons de cloche sont différents quand ils me parlent à moi que quand ils te parlent à toi, probablement. Et j'en suis bien désolée, parce qu'on ne peut pas, nous, s'améliorer et avancer si on ne nous dit pas les mêmes choses.
J'aurais juste envie de parler des salaires, quand même. Après, il y a des choix personnels, mais il y a aussi des salaires qui sont forcément dans une municipalité qui ne sont pas très élevés.
Moi, je ne demande pas pourquoi le salaire, le machin, le truc. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que après les élus, ce sont les agents qui nous quittent aussi. Je ne l'ai plus été. Je suis carrément du coin. Je vois un petit peu ce qui se passe. Et c'est quand même la première fois qu'on voit un mouvement aussi important. J'ai le droit, à un moment ou un autre, de me poser des questions.
Oui, bien sûr. Alors, sur 4, il y en a 3 où c'est principalement pour le salaire. Donc c'est quand même principalement, je dis pas, alors que les propos ne soient pas déformés, je ne dis pas c'est pour le salaire, il y a d'autres raisons bien sûr, il y a d'autres raisons plus personnelles, probablement que nous avons aussi un poids dans cette raison, je ne sais pas tout et je n'entends pas tout.
Moi ce que je ne veux pas entendre, c'est des raisons personnelles, ça ne me regarde pas. Moi ce que je crains, et ce que je voudrais pas que l'on vive, ce sont des tensions entre des élus et du personnel, et une fuite par rapport à ça.
après des problèmes de, comment dire, de salaire, mais ça ne nous regarde pas. Ça, je ne veux pas le savoir.
Oui, c'est
mais moi, ce que je crains, ce n'est pas ça. C'est pas ce que j'entends, c'est pas ce que je ressens. Mais je peux me tromper. Mm-hmm. Voilà. Ce que je ne veux pas, c'est qu'il y ait une tension. Mm-hmm. Voilà, à ce niveau-là.
Alors, moi, je suis pour la transparence. S'il y a des choses à améliorer dans notre fonctionnement, dans nos rapports avec les agents, on en a conscience, c'est pas toujours évident d'avancer, on a envie de faire évoluer les choses, on a envie d'avancer, et on va tendre à s'améliorer, mais voilà, effectivement, de toute façon, ce sont des rapports humains, donc c'est pas toujours facile, et ça va, ça vient, et voilà, et on essaye de faire au mieux.
Je voulais juste te faire part d'une inquiétude.
Oui, voilà. Oui.
Et non, puis j'aimerais quand même vous donner juste...
Je réponds, moi, comme je le ressens.
Et j'aimerais vous donner, puisque vous êtes aussi là et vous nous l'avez dit, vous donner un petit peut-être quelque chose de, pour vous aider, comme on a discuté une fois avec Frédéric, c'est que je te parlais de valorisation du personnel. Tu t'en souviens, Frédéric ? Ben, je pense qu'il est important, à un moment ou à un autre, d'insister sur ce mot valorisation. Valorisation de la personne et de ce qu'il est capable de faire. Et je pense que ça, voilà.
Ben c'est intéressant ce que tu dis, Sylvain, parce que je ne savais pas si c'était l'endroit pour en parler, mais en tout cas, du coup, je vais le faire et je vais parler de ce qui me concerne moi de très près, puisque je m'en occupe quotidiennement. C'est ce qui se passe en urbanisme et au service technique, à propos déjà de revalorisation. Guy. Qui est à la mairie au service technique depuis 20 ans, qui n'avait absolument jamais été augmenté depuis 20 ans, va être augmenté, c'est convenu avec lui, et sa fiche de poste, qui est fiche de poste quelque chose d'un petit peu vivant, va être modifiée avec lui. Parce que Guy a formulé le désir de progresser dans son boulot et d'essayer, pour les quelques années qu'il reste à faire avant la retraite, d'avancer et puis d'aller un petit peu plus loin, à la fois en salaire et à la fois en responsabilité. Bon, c'est des choses qu'on fait, dont on a conscience. Alors évidemment, moi je parle de ma petite tranche de fonction. Par ailleurs, je vais devancer avant qu'on... Je ne sais pas, qu'on nous reproche de faire fuir André Héritier. J'ai eu plusieurs conversations. Donc André Héritier a décidé de partir alors qu'il était là depuis 2 mois. J'ai eu une très très longue conversation avec lui. Il était absolument désolé. André m'a dit, vous savez, moi j'ai été super content de travailler avec vous. J'ai appris plein de choses, on a travaillé ensemble. Nous aussi on a appris des choses de cet homme qui était super. Et donc, effectivement, André part, mais je vais t'expliquer quand même pourquoi il part. C'est que André habite à Nyons, il a trouvé un poste dans une plus grande ville, à Valréas, qui est à 15 km de chez lui, alors que nous on est à 30, quoi. Et c'est des trucs hyper concrets, mais il est parti vraiment en désolé, quoi, pour le désagrément que ça nous causait, et en disant c'est bien parce que en 2 mois on avait réussi à installer un super rapport de confiance. Donc moi, enfin, en tout cas, en ce qui concerne la partie service technique, j'ai ces deux exemples. Je pense que ça se passe plutôt pas mal. Alors je sais pas après ce qui peut te revenir, hein. Mais bon, voilà, je voulais faire ce petit témoignage.
Oui, j'aimerais te rassurer, ne sois pas inquiet.
Non, mais tant mieux.
Tout va bien. Donc, on va peut-être partir la soirée, c'est 8h30, il y a Gérard qui va parler.
Je réponds quand même un petit peu.
Juste 3 secondes. Moi, je ne suis pas là pour savoir pourquoi, etc., quels sont les trucs. Je m'inquiète juste.
Ok, pour okay on a compris.
Et après, on parle bien de valorisation des personnes et pas revalorisation.
On a entendu ton inquiétude.
Donc, Sylvain, j'interviens. J'ai la croix. J'ai... Le plan ici du cadastre d'ici. Donc, c'est à la rivière, au Jabron, au rond-point de la gare, que le quartier s'ouvre. C'est le quartier. Les Grands Prés, la Pouilleuse, le Ginchet, la Croix-de-Lume, Malval, la Gare de Dieu, Colombier, la Pivert et Vignal, Salras, Moulinas, Masbeuf, Pisconin. c'est Nadia Nelson et Nicole Marcel qui sont les référents de ce quartier.
Ok, c'est super, merci.
C'était alors, dans le bulletin municipal.
Centre-Ouest.
C'est merci. Le Centre-Ouest et Nord-Ouest.
Alors, peut-être que la première info que l'on a à mettre sur ces panneaux, c'est ce que tu viens de dire.
Voilà. Ouais. Mais, alors, on va le refaire, mais c'était dans le bulletin municipal. Mais je veux bien, en effet, qu'on le distribue à tous les référents de quartier pour que ça passe, ça repasse
comme dans, ça, les gens le verront.
Dans les panneaux d'information.
Merci.
Tout à fait.
Merci.
Très bien, mais écoutez, je crois qu'on va clore ce conseil municipal. Une minute. Avec le micro.
Oui, je voudrais juste rappeler, puisqu'on ne se reverra pas avant, que le 18 septembre, au matin, de 9h à 13h, nous allons faire tous nos efforts pour organiser cette journée mairie, maison commune, porte ouverte, que nous avions programmé et beaucoup préparé pour l'an passé, 19 septembre, cette année, ça sera le 18. Et tous, vous êtes conviés à venir nous rejoindre, prendre vos places. C'est une maison ouverte à tous. Donc, 18 septembre, 9h, 13h. Et ceci s'inscrit dans notre volonté de mettre en place le comité de pilotage très vite et en même temps de montrer qu'à travers les travaux des commissions qui ont fonctionné, que des non-élus ont déjà beaucoup investi dans l'intérêt général. Merci.
Merci.
Monsieur le maire, juste, c'est parce que j'avais fait l'effort de poser des questions écrites la dernière fois, qu'on a remis normalement pour celui-là. Il y avait une demande sur les routes, l'état des routes. J'avais fait des... Il n'y avait pas Marc au dernier conseil municipal, on a dit on le remet. Donc je ne ferai plus de... Question écrite, c'est plus facile.
Non, moi je peux te répondre. Excuse-moi, j'étais pas là, effectivement, le 5 juillet.
Voilà. On remet au point.
On discutera à l'occasion, si tu veux.
Non, mais il faudra aller sur le conseil municipal. Certaines citoyennes voudraient avoir aussi une vision à long terme de comment on va un peu réparer nos routes.
Mais ça avait été expliqué dans le bulletin.
Oui, ça a été expliqué dans le bulletin, mais on en parlera.
Et l'autre jour, j'étais à une réunion de quartier aux Rouvières pour expliquer.
Ce qui n'est pas forcément valable de partout.
J'en profite pour vous annoncer le prochain conseil municipal dans 5 semaines, donc le 5 octobre. Et je vous remercie. Je vous remercie pour la tenue de ce conseil. Vous n'êtes pas très nombreux, mais j'ai vu la main de Gérard tout à l'heure s'élever. Un petit mot, le conseil municipal est clos.
C'est un mardi. Le 5, c'est un mardi.
Alors le 4 octobre, pardon.
Bon, ben les autres m'ont abandonné, ils ont des activités familiales probablement, donc je suis resté, soit le doyen fatigué. Écoutez, on s'est vu à plusieurs reprises avec les autres démissionnaires. On est tombé assez d'accord sur un peu l'analyse de ce qui se passe et de ce qui s'est passé. Et c'est vrai qu'on a trouvé des points communs dans nos démissions. Et le papier qu'on a rédigé et qu'on vous a fait parvenir, il est quand même pensé. Et je pense qu'il méritera que vous y attardiez un petit peu, que vous y réfléchissiez un petit peu, et on est à votre disposition pour, non pas pour des discussions rapides, mais pour approfondir un peu chacune des réflexions et des griefs qui sont faits. On n'était pas forcément décidé à se réunir et à faire quelque chose de commun jusqu'à ce qu'on ait le compte-rendu ou la vision de ce qui s'est fait le 5 juillet lors du conseil municipal. Et je dois dire que j'étais pas très en colère de façon générale par rapport à votre équipe. Et là, je l'ai été, et je le suis encore un petit peu, parce que oser dire que nous avons la culture du jetable, c'est dévalorisant, c'est humiliant, ça correspond pas à nos idées, ça correspond pas à notre... ça raye une grande partie de nous, c'est pas possible de tenir des discours pareils, c'est pas possible. Et ensuite dire qu'on n'a pas le respect de l'engagement, alors ça c'est pas à s'apercevoir de qui on est, je veux dire, chacun de nous à la place où on est, aussi bien professionnellement que d'un point de vue dans le temps, on a passé des vies à faire des choses, des vies d'engagement. Donc c'est inadmissible. Et depuis, moi, je suis un peu en colère. Donc il faut que vous entendiez ça. Voilà. On ne va pas faire démarrer la discussion, il est tard, etc. Mais je renouvelle l'invitation que je vous ai faite tout de suite de se retrouver éventuellement point par point. Par exemple, l'école maternelle, elle va être transférée près du GHC où il en est question. Est-ce que les deux victoires sont toujours... Est-ce qu'ils sont au courant? Est-ce que les instituteurs ont été consultés? Est-ce que les parents d'élèves ont été consultés? Est-ce que les habitants de ce quartier ont été consultés? Est-ce qu'il y a une vision globale, urbanistique de la situation qui fait qu'on va priver tout un quartier qui est le seul en développement, qui est le quartier des Raymond, qui est le seul où on peut encore construire des habitations et où il peut y avoir des enfants, des tout-petits-enfants? Alors que tout le reste est bloqué, est-ce qu'on a eu cette vision à long terme quand on a décidé ça? Voilà. Exemple.
Okay.
Je ne souhaite pas qu'on approfondisse, je serais intéressé quand même d'avoir des réponses ultérieures sur cette question. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire.
Écoute, j'ai juste une petite réponse. Je trouve que j'apprécie ta manière plutôt bienveillante et positive de... d'exposer ton propos.
Mais je considère encore comme des gens pour lesquels j'ai l'estime, et je sais qu'un conseil municipal, ça travaille. J'ai assisté donc plus ou moins directement au conseil municipal, et je sais que ça travaille. Donc Je t'entendais la colère tout à l'heure quand tu répondais à Bernard en disant « on travaille ». Bon, peut-être que ça serait bien, et de ce point de vue-là, la transparence et l'information pourraient diffuser davantage la qualité du travail que vous faites. Ça serait intéressant. Ceci dit, je suis, par exemple, dans le domaine de l'information, je suis très content du bulletin qui a été fait, c'était un truc de bonne qualité. Je suis très content de ce qui s'est fait aussi du point de vue culturel. C'est vrai que nos dimanches, etc., ont été sympas. Il y a eu des préoccupations discutées. Donc, je ne suis pas de ceux qui disent que c'est une équipe qui ne fait rien. Je sais que vous travaillez, mais ça serait bien qu'il y ait peut-être plus de transparence, c'est clair, de l'information. Et puis, je ne parle pas sur le fond, mais il faut que certains grandissent dans leur façon de traiter les autres. Voilà, c'est tout.
Merci. Oui. Tu as entendu ce qu'a dit Annie? Merci à tous. Passez une bonne soirée, une bonne rentrée pour les papas, et à bientôt.